suite au front actuel, et que ça allait sans doute créer des tensions au niveau entre la Fondation et les Doblats, mais qu'ils ne choisiraient pas au plus offrant. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'il disait que ça allait créer des tensions.
Donc c'est le trésorier de la Fondation qui vous a dit ça.
Oui, mais lui, il est aussi Doblat. Et en fait, déjà en juin dernier, quand il s'est posé la question, est-ce qu'on loue ou est-ce qu'on réhabilite, on loue ou est-ce qu'on vend, en fait, la Fondation avait décidé de louer et c'est les Oblats qui ont dit non, on vend. Et en fait, les Oblats décident.
Ils ont un pouvoir décisionnel.
Alors que normalement, c'est une propriété de la Fondation. Enfin, c'est la Fondation qui devrait décider. Et en fait, à chaque fois que la Fondation décide quelque chose qu'on impose aux Oblats, les Oblats reviennent sur cette décision et imposent leur décision. Et donc là, c'est dans ce sens-là qu'il a dit que ça risquait de créer des tensions parce que les Oblats ne voulaient pas. Donc est-ce que c'est lui juste son point de vue? Parce qu'il faut être clair, il nous aime bien. On a vraiment maintenant des relations, on va dire.
C'est celui que j'avais vu une fois, oui. C'est ça, oui. Les gentils, c'est sûr.
Donc après, est-ce qu'il s'imagine avoir plus de pouvoir qu'il en a, ou il aimerait bien être français déjà pour des réalités, enfin j'en sais rien.
Un peu. Ce que je ne sais pas, moi du côté de Fontvieille, pour l'instant, c'est encore très flou et très vague. Hein. Ouais. Effectivement, il va y avoir un espèce de cahier des charges rédigé pour donner les informations sur l'immeuble et savoir à quelle prescription on doit répondre, si vous voulez. Mm-hmm. Ce qui ne nous avancera à rien, parce qu'on savait déjà quasiment tout ça.
Hein. Bah oui, justement.
L'inconvénient que je vois, moi, à cette procédure, c'est qu'elle remet en jeu des gens qui doivent être écartés, puisque finalement, on devait être dans le dernier tiers, ouais. Enfin, le dernier groupe de trois, mm-hmm. Alors que là, on va traiter à 8. Avec tous les risques qu'il peut y avoir sur un promoteur. Alors, la seule chose qui peut y avoir de bonne pour vous pour l'instant, c'est que les promoteurs risquent d'être un peu frileux, peut-être. Voilà. À cause de l'année.
C'est ce qu'on espère.
De l'année prochaine qui s'annonce. On ne sait pas comment. Personne ne sait. On navigue à vue. Donc, ça peut peut-être un peu les ralentir. En même temps, dans l'autre sens, si je puis dire, c'est un programme sur Lyon aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça peut quand même intéresser du monde. Voilà. Même si, effectivement, l'année prochaine est un peu incertaine, la situation du bien fait que c'est un dossier pour un promoteur quasiment sans risque. Quoi. Donc, je ne sais pas plus que ça, malheureusement, pour l'instant, et je crains que ça soit traité pas forcément par ceux qui vous aiment bien. Quoi. Voilà.
Ok. Et alors, pour éclairer quand même un petit peu les choses au niveau entre ce que les échos que vous avez de mettre en vieille et ce qu'on a, nous, ce que nous a dit le père Châtelier, c'est que la Fondation avait mandaté le cabinet notaire pour préparer un cahier des charges. Et qu'ils l'avaient validé le 25 novembre lors de leur dernière réunion. Ils ont validé ce dossier qui est prêt et dans lequel il ne manque plus qu'une pièce, c'est l'évaluation des domaines.
Des domaines, oui.
Et qu'en fait, il y a juste ça qui bloque encore et que dès qu'ils l'auront, on aura le dossier. Bon. Et vous, la manière dont vous me présentez les choses, c'est que
moi, pour l'instant, le dossier n'était pas prêt chez Fontvieille, si vous voulez, et moi, je ne pensais pas qu'il sortira en décembre. Alors, peut-être qu'ils vont se bouger un peu. Ces temps-ci, on est surchargé, si vous voulez. On a toute la. Quand je dis nous, c'est tous les notaires, hein. On a tout le cellier de cette année là, qui se signe au mois de décembre. Et c'est assez colossal. On a la réforme des plus-values au mois de 1er février qui effectivement génère des actes jusqu'au 31 janvier. Encore des compromis assez complexes là, ces temps-ci. Donc c'est très très chargé pour l'instant. Et j'espère que chez eux, ils vont le traiter en urgence. Je ne suis pas certain. Quoi.
Ouais.
Après, ça sera aux Oblats ou à la Fondation de faire pression sur Paris. Mm-hmm. Mais pour l'instant, tout le monde est débordé. Si vous voulez. Et comme c'est un dossier qui traîne depuis quasiment un an ou à peu de choses près, je crains qu'il soit un tout petit peu repoussé. Voilà. Après, si elle a quelqu'un disponible et qu'effectivement, il lui manque que cette pièce-là, ça ira peut-être plus vite. Mais moi, d'après ce qu'elle m'a dit, pour l'instant, ce n'était pas encore prêt à sortir. Enfin,
d'accord. Ça date de quand, votre assemblée générale?
La semaine dernière.
Bon, après le 21.
Oui.
Ok. Donc c'est quand même contradictoire avec les informations qu'on a. Donc on se demande si on n'est pas un peu baladé, quoi.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que nous, elle sait qu'on existe, donc on aura toutes les informations, on fait bien partie de ceux qui seront prévenus, de ce côté-là, tout va bien. Après, je pense qu'elle se méfie un peu, alors est-ce qu'elle ne me dit pas toute la vérité non plus, parce qu'elle se méfie un peu des revirements qu'il y a eu dans ce dossier-là, si vous voulez, avec les différentes procédures mises en place, avec les atermoiements qu'il y a eu. Elle était toujours un peu la dernière au courant, donc est-ce que maintenant elle y va avec des pincettes et qu'elle me dit que la moitié des choses pour que je ne mette pas trop de pression, c'est possible aussi, hein, donc voilà.
D'accord. Ok.
On verra.
On navigue à vue.
Bon, on navigue complètement à vue. Et on peut par définition avoir aucune certitude, mais là on est vraiment Oui, il est plus pire qu'à nous, quoi. On ne sait pas, le contexte économique est dans ce qu'il est, le contexte immobilier est dans ce qu'il est. Je ne sais pas.
Ok. Parce que nous, au niveau du groupe, on commence aussi à avoir un peu certaines inquiétudes de certains, enfin, heureusement pas tout le groupe, mais sur le fait que, voilà, de report en report, certains ont vraiment qu'on se fait balader, qu'on se fait manipuler, que. Voilà,
je ne crois pas que ça soit. Il ne me semble pas.
Mais que ça va nous passer sous le nez pour des raisons, voilà, comme vous dites, pour 5000 euros ou pour.
5000 euros, moi, c'est.
Non, je ne pense pas non plus.
J'exagère un peu.
50 000 euros peut-être.
Mais j'exagère un peu.
Voilà,
le problème, c'est que dans une sélection où l'affectif jouait, vous aviez toutes vos chances. Mm-hmm. Dans une sélection plus financière, vous êtes sur la même ligne de départ que tout le monde. Quoi. Il faut en avoir conscience. Et s'il y a un promoteur, mais alors peut-être pas 5 000, mais 100 000 de plus, effectivement, on se fera griller. Ça, c'est sûr. Et le problème, c'est qu'on le saura au dernier moment. On le saura après, si vous voulez. Donc, je ne pense pas qu'ils vont laisser faire, parce qu'après, on sort plus ce qu'on appelle des surenchères, etc. Si nous, on est à 2 millions, qu'il y en a un qui est à 2 millions 100, il va jouer le coup. Tout le monde doit savoir que tout le monde est à 2 millions aujourd'hui. Il ne faut pas rêver. Les informations qu'on a, les autres les ont aussi. Il faut se cacher les yeux. Donc, c'est une partie de poker menteur. Hein. Est-ce qu'il y a un qui va monter plus haut? Est-ce que tout le monde va rester là en disant, de toute façon, c'est le seuil de rentabilité, on ne veut pas aller plus? Voilà, après, c'est un coup de poker.
Voilà.
Et vous avez forcément, vous, moi je ne ferais pas prendre le risque de monter à 2 millions 100 ou à 2 millions 2 uniquement pour le plaisir d'essayer de griller quelqu'un dont on n'est même pas sûr de le griller, vous comprenez ce que je veux dire. Donc je ne vais pas vous conseiller ça. Un promoteur, quelque part, il tente le coup. Il a presque moins de risques parce qu'il aura toujours des portes de sortie s'il veut, si finalement il ne veut pas acheter, etc. Il essaiera de se débloquer d'une façon ou d'une autre. Donc bon.
Non.
Et pour vous, un promoteur, quelle est sa limite pour ce bien?
Vous avez une idée là?
Non, parce qu'aujourd'hui, les prix sur le foncier ont été totalement déréglés, si je puis dire, par le cellier. On achète le foncier beaucoup trop cher, beaucoup plus cher qu'il ne vaut, parce que comme les promoteurs vendaient les résidences neuves à n'importe quel prix était mis en vente, n'importe quel prix s'achetait, aujourd'hui le foncier était traité à des prix beaucoup trop élevés, si vous voulez. Or, on sait bien que le cellier n'a maintenant qu'une espérance de vie limitée, dans l'attente d'un autre système qui sera mis en place, certainement, mais on sait que le cellier se terminera la fin de l'année prochaine, déjà qu'à la fin de cette année, son intérêt diminue très sensiblement, donc les prix commencent à se recentrer un peu, à se retasser un peu. Après, on est à Lyon. À Lyon, ils se vendent tout et n'importe quoi, à n'importe quel prix. Il suffit que vous ayez un promoteur qui dise, c'est bon, j'ai la clientèle parce que j'ai 3-4 clients, 3-4 copains qui veulent acheter, qui sont prêts à mettre ce prix-là. Il peut mettre plus cher, vous comprenez ce que je veux dire. En plus, les prix sont tellement fluctuants. On arrive, je parlais l'autre jour avec Alexandre, il a vu une vente l'autre jour au boulevard des Belges, à 11 000 euros le mètre carré, parce que pour moi c'est du délire total. Hein. Là c'est le boulevard des Belges, c'est vrai, mais pour moi ça vaut pas ce prix-là. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut acheter n'importe quoi à condition d'avoir clientèle derrière pour le revendre. Et sur des biens un peu particuliers, vous êtes quand même très bien placé. Le bâtiment, je vais vous dire ça, il n'est pas très beau,
esthétiquement,
on est bien d'accord. Hein. Donc, à une clientèle un peu fortunée, c'est ça qui va les bloquer. Voilà. Mm-hmm. Mais sur le reste, vous avez un emplacement en or, quoi. Il faut le reconnaître. Hein. Et donc, effectivement, le marchand de biens, il peut partir du principe qu'effectivement, le promoteur peut partir du principe qu'effectivement, il achète une base, que dedans, il va faire 1200, 1300 euros de travaux, et que derrière, il va vendre à 4500 ou 5000 euros le mètre carré. Pourquoi pas? C'est le prix que ça se vend aujourd'hui à la France, par exemple. Alors là, je pense qu'on serait, à mon avis, 5000 sera un tout petit peu cher, si vous voulez. Mais avec des prestations proches du neuf, il peut rentabiliser l'affaire. Hein. Okay. Après, un promoteur qui a déjà 4 programmes en cours, il sera moins pour ça, il peut y aller. Un qui cherche à toute force un programme pour être sur Lyon parce qu'il a la clientèle et qu'il n'arrive pas à leur vendre de biens, il y mettra plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc personne. Aujourd'hui, la chaîne de terrain à bâtir à Lyon, elle se traite entre 800 et 1000 euros le mètre carré de chaîne. Hein. Là, on a plus que du terrain à bâtir, puisque c'est déjà bâti en partie. D'accord. Donc il y a une partie des travaux qui sont déjà réalisés. La réhabilitation se traite plutôt à de l'ordre de 1200 euros le mètre carré, alors que la construction est plutôt à 1600. Donc quelqu'un, il devrait acheter ça à peu près à 1400 euros le mètre carré, quoi. Grosso modo, si vous voulez, il peut faire ce calcul là, quoi, voilà, à peu près.
Ok,
maxi.
Parce que nous, donc, pour revenir au groupe, donc certains commencent à être vraiment usés par une réunion par semaine, un week-end par mois, plus tout ce qu'on fait à côté. passer, etc., courir après les pompes, etc., etc. Ben, certains commencent à exprimer le fait que ben, si c'est encore reporté une fois, on arrête tout. Enfin, eux arrêtaient tout. Ce qui mettrait en danger tout ben,
l'équilibre de la fête.
Tout à fait, l'équilibre du groupe. Donc voilà, les conditions qui sont plus ou moins de manière, on ne va pas dire que c'est des non-dits, mais qu'on sent bien, c'est que si on n'arrive pas à obtenir de.
Le cahier des charges.
Le cahier des charges, donc effectivement, voilà, pour. Enfin voilà, on n'est pas un ultimatum donc pour le rendre aux alentours du 15 janvier, c'est ce que nous a annoncé le père Châtelier. Bon, éventuellement, si c'est jusqu'au 30 janvier, le 31 janvier, enfin, ça ne posera pas de problème. Mais disons que si par contre, ça nous pousse de nouveau à mars, on risque d'avoir des défections. Et aussi, si on ne trouve pas de banque, puisque pour le moment, on a les 10, on va dire fondateurs, hein, on est quand même engagé, puisqu'on a, on a fait 100 clôt de suspensif, on est engagé chacun à hauteur de 20 000 euros. Si on ne trouve pas de banque pour nous assurer que ça pourrait être faisable, enfin au moins nous faire une lettre de soutien, il y en aura qui vont se tirer. Enfin, et la banque nous demande donc, des statuts pour pouvoir avancer.
Okay. Donc, encore une fois, moi je me méfie un petit peu de ce que me dit Odile Fonvieille aussi, parce que comme je vous dis dans ce dossier-là, elle a eu l'impression d'être toujours en bout de course et d'être un peu malmenée par les différents ordres contradictoires. Qu'elle se méfie un peu, qu'elle ne me dise pas que c'est prêt pour se prémunir et pour qu'on lui mette de pression dans quand est-ce qu'on l'a, quand est-ce qu'on l'a. Ça ne m'étonnerait pas non plus, si vous voulez. Parce qu'elle me l'a dit plusieurs fois dans ce dossier-là, tout a changé tout le temps.
Oui, bon, on est d'accord avec elle.
Bonjour, Pierre. Je sais bien, j'en ai reparlé hier, il m'a dit que la banque devait payer normalement. Mais je ne peux pas vous dire. Mais... Et je lui ai dit. Je lui ai dit. Et à Caracas. Non, mais c'est ce que je lui ai redit hier, je lui ai dit j'ai un rendez-vous avec lui après-midi. Donc, en fait, c'est la banque, hein, normalement, qui doit débloquer, mais apparemment, elle est très nasse. Voilà. Mais Muriel, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit, mais le chèque, il l'apporte s'il l'a. Vous comprenez ce que je veux dire? Si la banque ne l'a pas fait, il ne peut pas l'apporter pour l'instant. Donc, je sais bien. Donc, logiquement, il m'a dit que normalement, d'ici la fin de semaine, ça devrait être bon, mais la fin de semaine, c'est demain et je ne l'ai pas. Et je sais bien, je sais bien. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de mieux? Vous comprenez, je ne vais pas l'emmener avec un fusil à la banque, vous comprenez? Eh bien oui, mais moi je peux pas. Voilà. Ouais, t'as des choses. Ouais. Non. Excusez-moi. Donc.
Sortez pas votre fusil.
Non, 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 c'est là, bon, entre la comptabilité et l'achat des clients. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'elle me. Délit qu'une partie des informations pour éviter qu'on mette de la pression sur elle, parce que j'en avais mis un peu et qu'elle veut se ménager une marge de manœuvre par rapport à ses clients qui m'ont l'air un tantinet et virevoltant, indécis et changeant. C'est possible aussi, hein. Parce que le fait qu'elle m'a dit que c'était pas prêt alors qu'il y a eu un projet envoyé, je pense que c'est pas une bêtise, ça. Donc, voilà. Est-ce qu'elle m'a pas forcément tout dit? Est-ce qu'elle se méfie un peu? C'est possible.
Voilà, ok.
Ok. Bon.
Donc, on attend ça.
De toutes les manières. Pour nous, au niveau du groupe, que ce soit ce bien ou un autre, pour nous c'est pareil.
Enfin, c'est pareil.
À condition d'en trouver un autre.
On commence à être attaché à celui-là. Et donc, enfin, pour une grande partie du groupe, enfin, donc, comme je disais, il y aura quand même des désistements, etc. Mais bon, la tendance est quand même à ce que si on n'a pas celui-là, on cherchera autre chose.
Le projet se comportera vers un autre.
Le groupe va pas discuter. Donc, ça, c'est aussi pour dire que tout ce travail, il n'est pas pour rien. Enfin, voilà, si on travaille sur les statuts, etc., enfin, ça servira pour autre chose.
Non, non, mais j'en suis persuadé.
Et après, on évoquait aussi le fait, parce qu'on sait que donc, vous serez rémunéré qu'à la signature, c'est ça, dans l'idée. Enfin, s'il y a besoin qu'on finance des choses avant,
absolument pas.
C'est aussi.
Ça fait partie de notre métier, ça.
Voilà, d'accord, ok. Les choses sont claires. Oui. Mais en tout cas, voilà, il va nous falloir des statuts qui soient plus ou moins bouclés très rapidement.
Donc Marjorie a travaillé un peu dessus et comme elle me disait hier, au fur et à mesure qu'elle avançait, elle avait des idées. Donc elle a dû vous envoyer un projet hier, un peu complexe, mais avec pas mal
de remarques. Il y a des choses qu'on va pouvoir adapter. Je l'ai mis sous Génapi, on peut peut-être le mettre.
Oui, chef.
Alors, l'idée, il me semble que ce serait de voir les statuts donc, que vous avez sortis et ensuite de voir article par article ceux dont vous avez besoin qu'on travaille, nous. Et puis, ce qui serait bien, c'est qu'on se fixe après un planning de réunion, de rendez-vous pour pouvoir avancer et finaliser des statuts quasi d'ici quelque chose comme ça.
Je vais essayer peut-être de se rencontrer. On va déjà faire un point sur peut-être les articles des statuts. Après, il n'y en a pas tant que ça qui demandent non plus. Je pense qu'il va falloir simplifier les statuts que je vous ai adressés.
C'est les statuts les plus compliqués que j'ai lus.
Voilà, c'est très complet. C'est,
par rapport à ceux d'autres interprètes que j'ai pu lire.
Oui, mais non, c'est très complet. Hein, on vise vraiment. C'est des statuts qui sont très complets.
C'est des statuts types que vous avez sortis
C'est des statuts types, oui, enfin, c'est des statuts oui, complets. Donc, il faut les retravailler parce que je pense qu'ils. Ça reste plus de la gestion patrimoine.
Oui, c'est pas, c'est des statuts classiques de société civile, mais adaptés plutôt effectivement à la gestion patrimoniale familiale qu'à votre opération, vous, si vous voulez.
D'accord.
C'est pour ça, c'est pour ça qu'il faut le retravailler.
Tous les cas,
enfin,
les cas où il y a des membres des titres, etc.
Oui.
Au niveau de la méthode de travail pour ce matin, donc comment on s'organise?
On va descendre les articles. Après, bon, sur la première page, par exemple, il y a pas, on va voir les articles type augmentation de capital, réduction de capital, au titre des cessions. Enfin, il y a certains articles, certains autres ne seront pas touchés, resteront en l'état. On va descendre et puis après, on verra en fonction si vous avez besoin d'échanger avec les autres personnes du groupe. Après, on peut faire un retour par téléphone.
Ok.
C'est pas...
Très bien.
Après, je vous avoue, j'ai regardé aussi les statuts que m'aviez envoyés, notamment ceux sur le
Terra-Bisson.
Voilà. Je regardais parce qu'ils étaient plutôt pas mal faits.
Oui,
je
vous ai rappelé les lieux que j'ai vus.
Il faut savoir regarder ce qu'on fait à côté.
Bien sûr.
On va pas regarder la trouver de bonnes idées.
Il a coupé le bavard, oui.
Tout à fait.
Il y a deux autres groupes aussi qui travaillent sur des statuts un petit peu similaires aussi.
Mais ils sont en fait au même statut que nous actuellement. Donc il y en a un qui a essayé de me contacter, je vais l'avoir au téléphone demain soir. Il y en a un autre, c'est dans le sud,
près de Toulouse, oui. Donc à la limite, s'il y a des points peut-être juridiques ou quoi que ce soit, peut-être ça peut être bien d'être en contact avec les notaires aussi.
D'échanger, les coordonnées de leur conseil, si je puis dire. C'est pas forcément un notaire, hein. Ça peut être un avocat, ça peut être...
Oui,
un...
oui, je sais pas encore.
Ouais. Ok, dis pas, Marjorie, je vous suis là.
Alors, juste moi, pour information, enfin, je sais pas que ça posera pas de problème, mais je suis malvoyant.
D'accord.
Donc, je suis pas du tout capable de voir le texte sur l'écran.
Non,
même version papier, ça sera un petit peu le même problème, mais j'ai imprimé, Anne-Françoise a imprimé ma version où j'ai mis toutes mes questions, mes commentaires. Donc,
même si j'agrandis beaucoup.
Non, même si, oui,
les D'accord, excusez-moi.
Il n'y a pas de problème, mais je suis habitué, donc normalement, je suis censé avoir une bonne mémoire et j'arriverai à suivre.
Vous avez appris tout par cœur cette nuit?
Voilà,
vous
exactement.
Vous avez envoyé un peu plus court.
Exactement. Voilà, mais on verra tout.
Mon premier article sur la forme, c'est un article type où on explique les règles qui s'appliquent, les termes des textes qui s'appliquent. En revanche, j'ai trouvé dans des statuts, je ne sais plus lesquels, où ils appuyaient bien sur le caractère intuitif personnel de la société lié avec l'objet, en fait. Pour peut-être éviter, je trouvais que c'était pas mal de le reprendre. Les comparants indiquent que le caractère intuitif personnel de la société objet des présentes est fondamental et que les dispositions statutaires doivent être constamment interprétées en prenant en compte en premier lieu ce critère.
Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce critère?
Alors, c'est le critère en fait finalement plus après de l'objet. Alors après, c'est à retravailler. C'était plus notamment...
C'est par rapport à votre projet, si vous voulez, et aux personnes qui sont réunies dans cette opération. C'est de dire que finalement, pour vous, vraiment, ce qui est important, c'est la relation que vous avez entre vous, ce qui la motive, et que tout, dans quand on a souvent des problèmes d'interprétation des statuts, et puis celui qui en a, c'est souvent le juge qui va interpréter, et on lui recommande, on lui demande de tout interpréter à la lumière prioritaire de ce constat-là, si vous voulez, qui sont les rapports qui vous unissent dans la... comment dire, dans la poursuite d'un objectif commun. Vous allez me dire que c'est la base de toute société, mais là, on le fait ressortir en particulier pour dire que dans votre société, peut-être encore plus que dans d'autres, ce côté intuitif personnel, ce désir d'aller ensemble vers un objectif commun, qui est la définition même de l'intuitif personnel, c'est du latin, mais c'est comme ça, c'est vraiment pour vous décisif et déterminant. Voilà, on insiste, en quelque sorte, on rajoute une couche pour dire les choses clairement. Voilà.
Oui, c'est bien au niveau civil, ce qu'on voit à l'expert pour l'évaluation, le problème qu'on a soulevé à plusieurs fois, que une personne sortait un peu en conflit, s'il faisait évaluer ses titres par un expert, on ne tomberait peut-être pas sur une valorisation qui correspondrait à l'objectif, en fait. Donc voilà, c'est pour vraiment appuyer un peu plus sur ce caractère.
Ok, ça me va très bien.
Donc après, l'objet, c'est l'objet de la société. Après, ça va être affiné avec vous et pourquoi on constitue cette société. Donc, d'après ce qu'on avait compris, c'était la création d'un lieu de vie commun aux associés et à leurs familles. C'est à vocation d'habitation principale par l'acquisition de voies d'achat, d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration de tout bien, droit et immobilier, etc., etc.
Alors là, j'aurais aussi une petite question. C'est donc on envisage, on a des, c'est principalement des soutiens familiaux, enfin des proches qui pourraient nous aider. Et bon, c'est pas trop. Donc vous en avez déjà un petit peu parlé par téléphone. Si on vous leur propose de prêter de l'argent à la SCI, au début, donc notre banquier nous a dit que c'était pas possible, mais vous m'avez dit que
je peux lui dire ça.
Donc on envisage.
On n'a pas le même code.
Mais on pensait aussi, peut-être proposer à certains qui voudraient plus s'engager, de devenir sociétaires. Et donc dans ce cas-là, ils seraient pas, ça ne serait pas des sociétaires habitants ou des. Voilà, enfin, ils ne penseraient pas dans le début de votre phrase.
L'objet, c'est que la société a pour objet. Le fait que les associés ne peuvent ne pas habiter dans les lieux. Là, c'est l'objet de la société. On lui dit, voilà, quel est son objectif? Pourquoi on constitue cette société? Son objectif, c'est de créer un lieu de vie commun aux associés. Alors, on peut mettre. On peut prévoir aux associés.
Voilà,
c'est pas forcément à tous les associés.
Parce que est-ce que ça pourrait pas s'échapper à quelqu'un d'extérieur, mais qui est associé, dirait oui, mais bon, dans les statuts, moi je. Prévoyez-moi l'appartement.
Complètement. Seulement si on met à certains des associés, ça fait un peu discriminant. Quoi. Une formule pour travailler ça, oui.
Et qui est différents types de sociétaires, les sociétaires habitants.
Ça, c'est créer des catégories d'associés.
On peut créer des catégories d'associés.
Je pense que oui. Sociétés par action.
Ouais, dans les SA, ça se fait. Vous avez plusieurs types d'associés, avec certains qui ont le droit de vote, d'autres pas, etc.
Les droits d'habitants qui sont différents. Je pense que dans une société civile, on va pouvoir.
Moi, je pense qu'on va pouvoir aussi créer des catégories d'associés avec des droits différents. C'est-à-dire qu'il faut travailler un peu.
Voilà, confirmer. Et puis, si c'est le cas, c'est peut-être plus simple.
Oui.
Donc en fait, on peut voir que c'est une création d'un lieu de vie commun. Pareil, ça reste certains associés au final.
Le fait de mettre certains associés, c'est à la fois discriminant et un peu trop vague, vous voulez, pour. Après, je pense.
On peut ne pas viser
une partie des associés.
Pas mettre aux associés,
Moi je pense qu'on mettrait par exemple. Imaginons que dans les associés, vous allez peut-être m'arrêter parce que je suis moi là-dedans, qu'on crée plusieurs catégories d'associés. Appelons ça les associés résidents ou habitants, si vous voulez, et les associés participants. Voilà. Et à ce moment-là, on définit cette catégorie-là dans qui est associé, et à ce moment-là, dans l'objet, on mettra comment vous associez résidents, si vous voulez. Parce qu'à ce moment-là, le certain, il est très vague. Pourquoi vous et pas vous, et l'inverse, pourquoi pas Tartampion. Donc, alors que si on précise effectivement qu'on a des catégories d'associés dont certains résident et d'autres pas, à ce moment-là, ça ne me gêne pas de mettre dans la société, dans l'objet, si vous la société, que c'est un lieu de vie réservé aux associés résidents, si vous voulez, ceux qui ont vocation à habiter là. Et puis qu'après, on fasse apparaître un peu dans les statuts différentes catégories d'associés, des associés résidents justement, et d'autres qui sont des participants, des financiers, je ne sais pas comment on peut les appeler, financiers c'est pas bien beau, mais peut-être participants à l'opération. Ça justifie après que ces gens-là aient un statut un peu différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça me paraîtrait moins vague et plus convenable que certains associés, si vous voulez. Voilà.
Mais sinon, est-ce que dans l'objet, on enlèverait tout simplement les associés et leur famille?
Oui.
En fait, on crée, la société a créé un lieu de vie commun à vocation d'habitation principale. Oui. Sans après, elle va le mettre en valeur.
Parce qu'après, je pousse le bouchon un peu loin, mais on l'a évoqué à plusieurs reprises. Est-ce qu'il est concevable que rentre dans le lieu de vie quelqu'un qui n'est pas associé?
Oui. Ah,
c'est la question que j'avais posée, c'est ce serait un locataire.
Voilà. Donc à ce moment-là, il ne faut pas qu'on le mette associé, si vous voulez ce que je veux dire. Donc si on le réserve aux associés, même résidents, peut-être qu'on se ferme trop par rapport à ce que vous souhaitez, je dis n'importe quoi, sans donner à quelqu'un un statut de locataire, parce que vous mettriez une location meublée, vous la payez là pendant 2 mois pour le dépanner parce qu'il est dans le besoin. Je pense que ça peut correspondre à votre philosophie,
oui,
si vous voulez. Mais il ne faudra pas que statutairement, ce soit interdit.
Oui, parce que ce cas de figure est prévu dans...
Il me semble, si vous voulez, que ça peut rentrer dans votre philosophie générale, quoi.
Et puis en plus, si on passait par un bail entre la société et les associés, c'est peut-être... Je pense qu'il vaut mieux l'enlever.
On l'enlève associé.
Voilà, simplement.
Associé et leur famille.
Voilà. Un lieu de vie commun.
Juste vie commun à vocation d'habitation
principale.
Donc voilà pour.
T'avais surligné aussi à l'étranger, la société engagée en France et à l'étranger.
Ça peut se développer si vous évitez de limiter le. Enfin, ça on peut l'enlever, mais si pas, dans 10 ans.
À mon avis, pour vous, c'est pas très important.
C'est pas important. Si on le met habituellement pour pas qu'un client qui achète des biens immobiliers, si d'un coup il va en acheter en Espagne, il soit coincé, parce que l'objet prévoit que l'achat en France.
Ah d'accord.
Voilà, élargir un peu le mélange.
Un peu jusqu'à s'élargir.
Vous savez pas, il y a un modèle,
campagne d'avoir.
Bon, après, c'est possible, même en conduit social, de modifier les statuts.
Non, mais on va supprimer en France et à l'étranger, comme ça, à la fin, à la création d'un commun. Voilà, on va se dire.
Alors, je rebondis peut-être sur cette question de modification de statut. Alors, ça, c'est par rapport à. Une petite parenthèse par rapport à la banque. Donc, le crédit coopératif, donc, est très intéressé, je l'ai déjà dit, par le projet. Enfin, c'est limite eux, je vous rappelle. C'est plutôt pas mal. Mais par contre, ils ont quand même des conditions. Donc, la personne qu'on a rencontrée plusieurs fois est très, en plus très sympa. Enfin, vraiment, apparemment, c'est un projet qui lui tient à cœur. Mais elle nous explique qu'au niveau de sa direction, c'est quand même un peu plus compliqué. Et que même au niveau de la Banque Nationale de France, apparemment ils sont contrôlés, et que donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et donc ils ne veulent pas qu'on ait une association qui soit majoritaire hein, au niveau des parts, mais minoritaire au niveau de l'apport. Ok ?
Mais minoritaire au niveau de l'apport.
Oui, parce que nous, dans notre idée, donc ça c'est l'idée qu'on avait surtout, enfin c'est ce qui apparemment se fait un peu le plus en ce moment au niveau des habitants européens en France, et par exemple dans le projet Vispens, c'est pas mal décrit. Ouais.
Oui, l'association est majoritaire, j'ai pas vu son apport avec un apport, les apports sont très faibles, non ?
Oui, mais les apports sont très faibles et ne sont pas liés aux comptes courants. Et comme nous, la majeure partie de l'apport serait un compte courant, l'association, elle, ne ferait pas d'apport en compte courant. Et donc la banque nous dit que.
Pour la répartition du capital social, c'est l'apport à la constitution qui compte, et pas l'apport en compte courant.
Oui, mais.
Ce qu'elle n'apporte pas, c'est que le compte courant, si vous voulez, vienne fausser après les répartitions entre associés. Mmh. Parce que quelque part, ce qu'il est en train de mettre en place, si vous voulez, c'est qu'on a une association qui, parce qu'elle aura un apport plus important que les autres, parce que dans le capital, même très faible, si on fait un capital de musulmans pour 1 500 euros et que l'association apporte 1 000 euros, et elle aura des 2/3 du capital, si vous voulez. Et qu'après, le reste des financements se fait en compte courant dans des proportions différentes des apports. Donc, avec par exemple l'association qui ne fait aucun apport en compte courant et après des gens qui apportent beaucoup plus, l'association. Et ça, la banque ne doit pas vouloir.
Voilà.
Elle doit souhaiter quelque part que les apports réels, y compris les comptes courants, pas seulement les apports en capital, reflètent la participation au capital.
Voilà, c'est exactement ça, c'est ce qu'elle nous a expliqué. Et par contre, elle nous dit que si on a une association qui est minoritaire, il n'y aura pas de problème, ça ne posera aucun problème, et qu'on n'a qu'à, juste après signature, elle nous l'a dit cash comme ça, juste après la signature, on n'a qu'à changer les statuts.
Mais vous n'avez pas besoin de changer les statuts, c'est là pour vous rappeler qu'en fait, les apports en compte courant ne sont jamais inscrits dans vos statuts.
Oui.
C'est de la comptabilité. C'est
oui, mais la banque veut savoir comment les choses, enfin, ils veulent plus savoir quoi. Hein, ils nous ont vraiment demandé des choses.
Le problème, c'est que la banque, si vous voulez, elle s'intéresse à la fois à vos statuts et au fonds dont vous disposez pour financer l'opération. Et s'il y a une distorsion, j'ai résumé un peu, mais une distorsion entre les deux, où on dit finalement l'essentiel des apports en compte courant sont faits par telle et telle personne, voilà, telle associée si vous voulez, et que dans les statuts, l'association est majoritaire par rapport à ces personnes-là, ils vont y voir une discordance. Donc ce qu'elle est en train de nous dire, la banquière, c'est, parce que nous, effectivement, ce que Marjorie vous explique, c'est que les apports en compte courant ne figurent pas dans les statuts. Oui, c'est ça qui va dans ce. Seulement, ils vont figurer dans les documents que vous avez donnés à la banque pour justifier du montant de votre apport personnel.
Voilà, c'est ça.
Donc, voilà. Donc, ce qu'elle vous demande, c'est que pour l'instant, vous ayez une espèce de première version, j'extrapole, mais des statuts, qui pourraient permettre de passer au niveau du financement avec la banque, où l'association resterait minoritaire dans les apports. De façon à correspondre aux apports en compte courant que vous faites également, et quitte après, par la suite, une fois que le financement est accordé, une fois que le bien est acheté, etc., à modifier les statuts, de façon à peut-être faire un apport, un nouvel apport, pour augmenter la participation de l'association, ou alors en majorité à par session, peu importe, d'une façon ou d'une autre.
Voilà, c'était ça ma question, mais c'était juste pour savoir combien ça coûte, quelles contraintes ça impose au niveau financier.
Ça dépend l'acte choisi pour transférer.
Parce que pour nous, c'est juste qu'il n'y aurait pas que l'histoire de transfert de capital. C'est que, a priori, on voulait au départ, mais c'est encore en discussion, mais que l'association soit majoritaire et qu'il soit impossible de la rendre minoritaire. Et donc, si au départ, dans nos statuts, on a une association qui est minoritaire, c'est qu'elle est contre les statuts qu'on aimerait. Donc il faudrait qu'il y ait une modification en même temps que l'augmentation de part de l'association, il y ait de toute façon une modification de statut qui dirait qu'en plus, à partir de cette nouvelle modification, l'association ne peut plus devenir
majoritaire. En fait, à partir du moment où on fait une modification, en termes de dépôt, parce qu'il y a plusieurs, quand on fait les sociétés au niveau des formalités, il y a plusieurs des frais. Il peut y avoir un enregistrement, donc des droits dus aux impôts en fait, pour l'opération, donc, pas toutes, mais pour certaines. Conduire à payer le droit d'enregistrement. On peut avoir parfois une publicité dans un cadre légal, qui a rajouté un coût, alors c'est pas pour tout, c'est un changement de gérance, il y a un transfert de siège, une modification de l'objet social, on peut en faire une publicité. Là, a priori,
on est associé déjà, oui, parce qu'on publie effectivement dans la SCI le nom des associés. Qui sont engagés au passif social. Non, mais justement, mais comme là, on ne modifie pas, on ne rajoute pas, on ne change pas, on augmentera la quotité de l'un des associés. Pourquoi ? Par contre, on modifiera le capital.
Oui, donc il y aura une pour le capital. Et après, il y a des frais au niveau du greffe. Et là, les frais au niveau des greffes, je veux dire, une fois que vous faites une modification, il vaut mieux les faire tout en même temps parce qu'ils prennent qu'un coup de formalité, ils prennent le plus cher. Mais si vous faites juste transfert de siège, vous faites un transfert de siège au mois de décembre et un changement de gérant, je ne sais pas, au mois de février, vous prendre peut-être deux fois 200 euros, alors que si vous faites tous les mois, il vaut mieux que deux fois
300 euros. C'est donc une question un petit peu annexe pour avoir un ordre d'idée, ça serait de l'ordre de 200 euros ou ça serait de l'ordre.
Ça sera un peu plus que si on part sur une pub, avec une pub, il y a déjà moins entre 150 et 200 euros pour la publicité.
D'accord, plus le greffe.
Plus le greffe au maximum, c'est 200 euros.
D'accord. Oui, donc on peut.
Vous mettez un budget de 1000 euros, ça
voilà, passe. Voilà. Donc c'est juste pour savoir, cette concession qu'on risque d'être obligé de faire à la banque nous coûterait dans les 1000 euros.
À peu près.
Voilà, c'est juste ça.
Ça ne passera pas ça.
D'accord.
Et effectivement, d'après ce que vous dites, puisqu'effectivement on devrait modifier nécessairement les statuts pour garantir la majorité de la société en quelque sorte, on sera obligé de passer plutôt par une augmentation de capital que par une cession de part.
Oui, je pense que la société sera plus intéressante.
Oui.
Cession ou réduction de capital peut-être de la part des
En même temps s'il faut apporter s'il faut que la cession apporte 500 euros
alors bon il y a un autre problème et là on verra la prochaine fois qu'on va monter, mais elle aimerait aussi que nos parts soient quand même assez importantes parce qu'elle dit que ça pose des problèmes pour les entrées sorties, enfin que des futurs entrants ne pourront emprunter que pour acquérir des parts, ne pourront pas emprunter pour remplacer du compte courant au niveau des banques. Donc il y aura toujours cette question de trouver un petit équilibre pour.
Ça, c'est une question qu'on aura systématiquement.
Ouais.
Après, il faut aussi se méfier un tout petit peu au niveau de la banque. On aborde tout, mais une des garanties les plus classiques demandées par les banquiers ces temps-ci, il ne faudra pas qu'ils vous la demandent. C'est un engagement de non-modification de la géographie du capital social, c'est plus ça comme ça.
Ah oui.
En clair,
oui, on peut parler de ça.
Et voilà, donc si vous ne le mettez pas, ça me va bien, mais si vous le mettez derrière, si vous voulez, souvent ils le mettent parce que c'est pas pour vous interdire à faire ce que vous souhaitez faire, mais c'est plutôt pour être certain que les personnes avec qui ils ont traité vont bien rester dans l'opération. D'accord. Donc nous, à un double titre, il faudrait éviter d'avoir cette clause. D'abord parce qu'effectivement, votre souhait, c'est de re-rendre majoritaire l'association après, et qu'il ne faut pas qu'on puisse, qu'on soit bloqué par la main pour le faire. Deuxièmement, votre objectif, c'est quand même qu'on puisse céder assez facilement et sans avoir systématiquement à demander l'accord de la banque, départ de quelqu'un qui s'en va au profit d'un nouvel entrant, si vous voulez. Donc, il ne faut pas qu'on ait une garantie comme ça. Or, c'est une garantie assez classique demandée par les banques quand même sur les opérations de société. Voilà, qu'il n'y ait pas cette garantie-là, parce qu'elle nous pénaliserait un double titre. Je vous dis ça, c'est un incident. Hein, mais,
ok, d'accord.
La non-modification de la géographie du capital, voilà. Okay. Je montrer ça avant. Bon, ok, ça il faut envisager ça, effectivement, si vous souhaitez.
Ok.
Pour l'objet, il a dit tu as surligné au niveau de l'objet là, la propriété et la gestion de la propriété.
Oui, parce que
c'est. C'est des formules standards, si vous voulez, parce qu'en réalité, on pourrait imaginer. Que, alors, il faut peut-être les rédiger un peu différemment parce que là, c'est vraiment fait pour la gestion patrimoniale de titres. Par contre, il faut quand même prévoir l'hypothèse un peu différente de celle-ci. Vous n'avez pas vocation à gérer un portefeuille de titres, si vous voulez, d'accord. Par contre, il est concevable que votre société soit elle-même actionnaire d'une autre société. Je dis n'importe quoi. Imaginez qu'un autre projet se monte et que vous soyez actionnaire de ce projet-là sans y être les seuls, que vous participiez, je dis n'importe quoi, au projet de Toulouse en tant qu'actionnaire, pourquoi pas, si vous voulez. Donc il ne faut pas s'interdire de participer vous-même en tant que société à une autre opération. D'accord.
Ah oui.
Voilà. Mais il faut peut-être le rédiger plutôt dans ce sens-là que dans le sens de la gestion d'un portefeuille de titres qui effectivement est une activité classique de la société civile mais qui à mon avis pour vous n'est pas du tout adaptée. Quoi. Voilà.
Oui, donc il y a une formulation qui en plus contraindrait un petit peu, enfin on foncerait le coup de cette idée que oui, on pourrait éventuellement être sociétaire d'une autre.
Voilà,
mais dans un but.
Dans un but qui est votre objet ou en quelque sorte, votre vocation. Ouais.
Ouais. Dans ce sens-là, ça devrait être bien, je pense, avec une telle clause. Sinon, oui, c'est pas la peine.
Oui, ben, ça dépend, parce qu'il y a quand même prévu aussi que si des personnes apportent des financements dans la SCI, que l'on rémunérerait cet apport.
Ça,
c'est pas tout à fait
c'est
ça. Si vous voulez, ça, en réalité, cette clause-là, elle vient du fait que certaines sociétés civiles de famille ont pour objet de gérer un portefeuille de titres. Donc, vous gérez des actions, je dis n'importe quoi, Total, Unilever, etc. Dans le cas de la société, vous, ça ne paraît pas être votre objet.
Non,
si vous
avez...
Par contre, voilà, le fait que vous puissiez, imaginons, je dis n'importe quoi, mais que votre société marche vraiment très bien, et puis qu'il y ait des petits projets qui se développent ailleurs, et que vous rentriez dedans, un peu à la fois comme caution morale, comme participant, comme intéressé à ces projets-là, on peut concevoir que vous déteniez des titres d'une autre société dans cet objet-là. Bon, ça me paraît parfaitement conforme à votre fait.
Oui.
C'est bon, ça, Marjorie?
Oui.
Et par contre, effectivement, supprimer la partie question de titre habituel.
Oui,
comme...
oui.
Ok.
Donc après, là, ça va aller peut-être un peu plus vite. Dénomination, après, vous trouviez un nom. Le siège, je pense que ce sera à l'adresse. Acheter la durée, c'est aussi type, une société constituée pour 99 ans, elle peut être dissoute avant, si l'objet social est réalisé, etc., s'il y a plusieurs causes de dissolution, elle peut également être prorogée si on a 99 ans. Les besoins, donc après, on passe sur la partie apport, donc là, sera un
système,
voilà, l'ensemble des montants, des personnes et des montants qui seront apportés.
Là, quand vous dites apport, c'est l'apport en capital.
C'est l'apport en capital. Voilà, c'est ce que chacun devra apporter au jour de la constitution.
D'accord.
Pour
créer la société.
Voilà, ce sera le capital social et en échange de quoi vous recevrez les titres de société.
Okay.
Donc après, dans l'article suivant, on relate. Donc, ben, en fait, vous avez apporté 1000 euros. Le capital sera de 1000 euros. Il sera divisé, on va mettre 1000 par 2. De 1 euro ou 100 parts de 10 euros, peu importe. Et après, on liste, on fait le corollaire, on liste ce que vous avez reçu chacun en échange, donc en termes de parts sociales.
Alors, juste une chose, là tu avais surligné aussi au niveau des apports, au moyen de fonds communs.
Oui,
ça veut dire quoi ça? Non, mais en fait, il sera adapté, c'est soit si vous êtes fonds communs, c'est pour des personnes qui sont mariées,
voilà,
c'est
un régime communautaire.
Donc là, puis on applique régime, moyen de fonds communs, moyen de fonds propres.
Il faut pas vous embêter avec ça, ça c'est le travail, mais effectivement, c'est du détail. Mais souvent, que les personnes qui font l'apport sont célibataires, mariées sur le régime de la communauté ou mariées sur le régime de la séparation de biens, les formalités ne sont pas tout à fait les mêmes.
Non,
si
vous voulez
faire des fonds communs, si quelqu'un est marié sur le régime de la communauté, l'apport doit être fait avec l'accord de son conjoint.
D'accord.
Ou alors pour les deux qui apportent ensemble, ou pour l'un qui apporte tout seul, mais avec l'accord de l'autre. Voilà, okay. Avec l'information de l'autre. Donc ça peut importer, ça fait de la bricole.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Ça tient au régime matrimonial ou à la situation matrimoniale de chacun.
D'accord.
Donc voilà, après sur l'article 7, vous n'aviez pas de.
Si, là tu as surligné, donc attribué aux associés en représentation de leur rapport respectif.
Voilà.
Donc, a priori, non, encore en discussion.
Oui, alors. Oui, nous, notre question, enfin, voilà, c'est qu'on est en train de discuter sur la. Oui, non, mais là, oui.
On n'a pas le choix.
C'est parce que, oui, j'avais pas compris, voilà.
La distinction entre
rapport et en concourant. Mmh. Voilà, donc là, maintenant, c'est vrai.
En fait, si on parle d'apport, juridiquement, nous, on vise les apports à la constitution, augmentation de capital, et qu'on apporte à la caisse, à la caisse sociale et la société, finalement.
D'accord. Ok, donc ce commentaire vient.
Je rentre dans le capital social. Et les apports en compte courant, alors après, il y a les articles sur augmentation du prix de capital. Tous les projets que j'ai de statut prévoient tous que la société a capital variable. Et je pense que ce n'est pas adapté à ce que... alors je pense qu'il prévoit des sociétés à capital variable, c'est imaginé, hein, pour justement s'ils financent comme vous par compte courant, pour que par exemple toutes les années ou tous les deux ans, ils fassent une augmentation de capital par apport ou incorporation des comptes courants au capital social.
D'accord.
Donc dans ce cas-là, toutes les sommes que vous avez versées en apport compte courant vous sont vous récupérez des titres sociaux en échange de votre participation augmente. Mais nous, c'était pas notre c'était pas sur ce qu'on était parti parce qu'on se repose ce problème de valorisation de vos titres et de ce que vous allez vendre le jour où vous sortez. Donc moi, je n'ai pas opté pour. Alors, l'intérêt de faire une société à capital variable, c'est qu'à chaque augmentation de capital, on ne paye pas de droit d'enregistrement à partir du moment où on reste dans les seuils qui sont fixés au statut.
D'accord.
On fixe un seuil minimum, on fixe un seuil maximum, et le temps que le capital varie dans ces seuils, on ne paye pas, on n'a pas besoin de faire de publicité, on ne modifie pas les statuts. Il n'y en a pas d'enregistrement, donc les trois types de frais que je vous ai évoqués tout à l'heure, il n'y en a pas.
D'accord.
Donc l'intérêt est là, donc je pense qu'il font ces sociétés à capital variable parce qu'ils envisagent de faire des augmentations ou peut-être réductions de capital assez fréquentes et pour éviter justement ce genre de. Moi en tant que tel, je ne vous le conseillerais pas. Enfin, je trouve que c'est.
Et pourquoi ne pas le conseiller enfin, moi je comprends ça tellement comme un truc plus large et donc qui nous donne la possibilité au cas où, mais si par contre on prévoit le truc plus étroit, on ne pourra jamais. Si un jour il y a la question d'augmenter le capital. Par exemple, par une association qui prendrait plus de parts ou je ne sais quoi, ça ne serait pas du tout possible.
Si, ça serait possible, il y aurait des frais.
Ah, d'accord.
Vous auriez fait une modification.
La différence, c'est que dans un cas, si vous voulez, vous pouvez faire 10 modifications dans l'année, ça ne coûte rien du tout. Dans l'autre, celui qu'on vous expose, nous, effectivement, la modification du capital entraîne des frais, je dis de l'ordre de 1 000 euros. Voilà, donc, après, la question, c'est est-ce qu'on va ou non avoir recours à l'augmentation de capital, si vous voulez, j'essaie de résumer ce que vous avez dit, mais ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, si on procède à l'augmentation de capital, ça va être par rapport, d'accord, ou par intégration de compte courant, mais ça nécessite à chaque fois une évaluation du patrimoine de la société, si vous voulez, avec les difficultés que ça entraîne. Parce que l'augmentation de capital, vous imaginez bien, la première qu'on va faire, si on la fait juste au début de l'opération, elle ne posera pas de problème majeur. On vient d'acheter un immeuble qu'on connaît, on vient d'avoir un prêt que l'on connaît, et on a des apports en compte courant qui sont en fait des prêts à la société par les particuliers, que l'on connaît également, si vous voulez. Donc on a une valorisation qui est quasiment immédiate. D'accord ? Dans 3, 4, 5 ans, c'est un peu différent, parce que l'actif, la valeur de l'immeuble aura nécessairement changé, les prêts auront été remboursés, et normalement, si vous voulez, les apports l'augmentation de capital, doit tenir compte de ce qu'on appelle la valeur en numéraire, mm-hmm. d'accord, de l'apport, on va n'importe 100 euros, mais pour 100 euros, vous avez une part qui vaut combien ? D'accord ?
Oui.
Ça nécessite normalement pour chaque augmentation de capital la détermination. Imaginons qu'on fasse dans la société 100 parts de 10 euros. Très bien. Mm-hmm. Vos parts valent 10 euros. Seulement dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quand votre immeuble aura un peu augmenté, vous aurez un peu remboursé le prêt, la valeur de la part, même si au nominal elle vaut effectivement 10 euros, mm-hmm. sa valeur réelle sera différente.
D'accord.
D'accord ? Donc cette valeur, la différence entre cette valeur réelle de 10 euros et cette valeur. Pardon, la valeur nominale de 10 euros et la valeur réelle qui dépend de l'évaluation exacte de l'actif, c'est ce qu'on appelle la prime d'émission. Mm-hmm. D'accord ? Qui va, quelqu'un, pour avoir des parts, il ne suffira pas qu'il mette 10 euros sur la table. Il faudra qu'il paye plus, parce qu'en réalité, ça lui donne droit à une valeur d'un bien qui est plus importante. Je vous suis pas compris. Voilà. D'accord ? Donc ça nécessite une évaluation du bien à chaque fois. Mm-hmm. D'accord ? Donc ça ne nous semblait pas forcément. Je ne pense pas que vous allez procéder à ça très souvent, compte tenu de la complexité de l'opération, si vous voulez. Voilà. Et c'est un peu ça. Et bien après, le capital variable peut effectivement gêner votre banquier, justement. Peut,
parce que vous n'avez pas, il y a beaucoup de personnes qui sont surpris après qu'elles reçoivent le CABIS, parce que sur le CABIS, vous n'avez pas le montant de votre capital social. Donc c'est toujours gênant. Voilà. Toujours, on va toujours vous demander les statuts, on va toujours demander des comptes pour savoir où en est le capital social, à quelle somme, etc. Donc il y a des comptes. Après, ce qui est bien dans la société, c'est que tout peut être changé. Si dans 2 ans, vous vous rendez compte que vous envisagez de faire des réductions ou des augmentations de capital régulières, on peut faire basculer la société en société à capital variable.
D'accord.
Ça fait une modification, c'est à peu près les mêmes frais que si on fait une augmentation de capital, mais vous basculez la société à capital variable.
Ok. Alors j'aurais juste une question. Comme nous, en fait, au départ, il y a des personnes qui sont en cours d'intégration, on ne sait pas à quel niveau elles seront au moment du réellement de la signature, mais imaginons qu'on a 7 personnes, donc au moment de la signature on soit toujours 10 à signer, donc on va être 10 à acheter, donc si c'est un à fixe, donc on va se répartir les, je sais pas, donc partons sur 1000 parts, on va se répartir les 1000 parts avec l'association qui en prend une partie. Mm-hmm. Bon, mais le jour où donc de nouvelles familles vont venir et vont vouloir intégrer le projet, comment ça va se passer si le capital est fixe?
Mais en échange, il y a une partie qui, il y a des parties qui sortent, enfin c'est en cas, enfin.
Vous allez les parts.
C'est-à-dire que les 10, imaginons qu'on ait chacun 10 parts, mm-hmm. et que donc toute l'association est 100 parts, on va dire, elle fait 200 parts en tout. Ok. Au moment où une nouvelle famille arrive, on va être obligé de lui donner une partie de nos parts, lui céder une partie de nos parts.
Il y a soit ça, soit faire une augmentation de capital, et c'est cette personne qui souscrit à l'augmentation de capital.
D'accord, mais dans ce cas-là, si on est à capital fixe, il va falloir payer les frais.
Voilà. Un inconvénient, si, alors, parce qu'effectivement, si certaines personnes utilisent la SCI à capital variable, c'est justement pour ça. C'est pour éviter de faire des sections de parts à chaque fois, mais de permettre de faire rentrer et sortir des gens par le biais d'augmentation ou de réduction de capital successive, si vous voulez, pour éviter une cession. L'inconvénient, c'est que ça va aller contre un des problèmes que vous évoquez, c'est celui de la majorité de l'association. Parce que imaginez, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez l'association qui a, vous voulez pas qu'elle tombe en dessous de 100%
des parts.
Si vous rajoutez des parts à quelqu'un d'autre, vous allez faire rebaisser proportionnellement la quote-part de l'association, si vous voulez. Donc ça peut être un peu contradictoire. Sauf à obliger à chaque fois l'association à participer dans le même montant, de façon à maintenir en permanence son
quote-part. Ouais.
Voilà. Ça me semble un peu complexe.
Mais donc, pour éviter donc ce risque par rapport à l'association, il vaudrait donc mieux être à capital fixe, vous disiez.
De toute façon, il gardait sa majorité.
Et donc, par exemple, moi, mes 10 parts, je serais en quelque sorte contraint pour que la nouvelle famille entre de leur en vendre une.
Oui.
Et quelles sont les contraintes, là, sur le plan, je ne sais pas, fiscal, sur le plan...
Il y a des droits de mutation.
Il y a l'acquéreur, des parts, si vous voulez, doit payer effectivement un droit de mutation, mettez 5%, c'est pour résumer, sur la valeur des parts, donc sur le prix de cession des parts, et du côté du vendeur, donc vous pouvez avoir un impôt sur ce qu'on appelle la plus-value, sur la cession des parts. Alors, tant que c'est votre résidence principale, pour l'instant, on doit être à peu près exonéré, mais combien de temps ça va durer, j'en sais rien, ça. Hein. Voilà. Donc, après... Je reconnais que c'est fondamentalement, ça pose un souci aussi, parce que si aujourd'hui vous êtes... Il y a combien de logements dans l'immeuble ?
On pense qu'il y en aura 20. Une vingtaine. Enfin, pour le moment, on est en discussion avec l'archi, enfin on est en train de faire de la métaprogrammation en fait, et donc on partirait sur à peu près une vingtaine de logements. Enfin, ça dépendra en fait des nouvelles familles. Parce que s'il y aura peut-être des nouvelles familles, si c'est des familles avec trois enfants ou si c'est des jeunes couples et qu'ils ne pensent pas avoir trois enfants, ben, ça ne fera pas les mêmes surfaces. Donc voilà, si ça se trouve, il y aura 20 familles. C'est, disons que c'est le grand maximum. Hein. On est entre 15 et 20.
Je fais un tout petit peu de prospective. L'idéal aurait peut-être été à ce moment-là de prévoir que l'association avait non seulement. Enfin, il aura fallu que vous ayez en quelque sorte les parts qui correspondent à, je caricature un peu, mais à 10 appartements, si vous voulez. Et si vous voulez que l'association reste majoritaire, donc qu'elle ait 50% des parts ou 51%, il aura fallu créer, je dis n'importe quoi, 40 parts, si vous voulez, 20 qui soient à l'association, pour l'instant, 10 à chacun de vous, on multiplie par un coefficient, mais c'est pas vrai, 10 à chacun de ceux qui sont les fondateurs, et 10 qui pour l'instant seraient propriété également de l'association et qui aurait vocation à être cédée à de nouveaux entrants par la suite.
D'accord, ouais, c'est l'association qui ferait l'opération de vente.
Ça me semblerait plus juste, si vous voulez, parce que pourquoi est-ce que sur tel appartement, c'est vous qui céderiez vos parts et pas vous, voilà. Et à l'inverse, pourquoi obliger chaque fois chacun à céder des parts en plus d'un appartement qu'il n'occupe pas, donc de générer de la plus-value à ce moment-là. Donc il serait peut-être souhaitable que l'association ait à la fois ses parts majoritaires, ses parts qui la rendent majoritaire, plus les parts qui correspondent aux 10 appartements vacants, en quelque sorte, de façon à ce que vous arrivez après votre rythme croisière, et à ce que finalement, ensuite, chaque fois que quelqu'un veut rentrer, ça suppose que quelqu'un d'autre sorte. Pour l'instant, ce ne sera pas le cas, parce qu'effectivement, vous n'êtes que 10 sur 20 appartements. Mais, par contre, on va retomber sous la difficulté exprimée par votre banquière, que l'association, dans ce que je vous dis là, non seulement elle est majoritaire, mais elle est ultra majoritaire là. Elle a quasiment 2/3 des parts, quoi. Donc, on va se heurter à cet écueil là.
D'accord.
Et ça devient un peu complexe, mais question de convention de portage, où c'est pas les personnes, enfin ceux qui apparaissent dans les statuts ne sont pas les personnes qui sont titulaires pour une durée très courte, pour que le temps de la constitution ne soit pas l'association qui soit. C'est pareil, les conventions de portage, on l'a déjà fait, mais c'est sur des sociétés par action. Est-ce que pour des sociétés, est-ce que ça peut s'adapter à une société civile? Ça peut être.
Ça me paraît pas tout à fait juste, parce que ça me paraît pas. Comment dire? Excusez-nous, on parle, mais ça me paraît pas compatible avec la solidarité et l'engagement au passif social de ceux qui les associent, contrairement à l'ASA.
Oui, mais il n'y a pas de.
Oui, il n'y a pas de stabilité. Je pense, mais après, je me trompe peut-être. Hein.
Ouais, je regarderai quand même.
Oui, si on peut, si techniquement c'est possible.
Ça pourrait être la solution pour une courte durée, histoire de quelques mois, pour obtenir un financement finalement.
Oui.
Je sais pas comment
ça. Il faudrait faire une espèce de statut en deux versions. La première, pour la banque, presque transitoire, le temps que l'opération soit montée, et après, on remet tout à plat.
Oui,
ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, les sociétés civiles, la répartition du capital apparaît dans les statuts.
Oui.
Et pour modifier cette répartition, le DREF va me demander l'acte justifiant la mutation. Je ne pourrais pas le sortir à la convention de portage. Alors que dans les sociétés anonymes, on n'a pas la répartition. Ça modifie le fait qu'il y ait des changements de titulaire, ça ne change pas les statuts, donc je n'aurais pas. Ouais, non, c'est pas possible.
Mais est-ce qu'on pourrait pas juste, comme vous disiez un petit peu, enfin, faire des statuts pour la banque, on signe les papiers, etc. Et après, on paye donc au maximum 1 000 euros pour juste changer les statuts.
Par biais d'une partie de capital qui justifie qu'on. Pourquoi est-ce qu'on a votre esprit, quoi. On travaille sur deux statuts en parallèle, sur lesquels, ceux qu'on signe pour l'instant et ceux auxquels on veut aboutir un peu de temps après. Quoi.
Oui, je vois que ça ne change que la partie sur la répartition, ça change essentiellement la page de poste.
Ok, donc on partirait plutôt sur un capital fixe,
oui,
avec dans l'idée d'avoir plutôt une association très majoritaire
qui préserve la majorité de l'association finalement. C'est plus voilà. Sécurisant, je pense.
Mais ça serait de toute façon pour les statuts, on va dire numéro 2, puisque dans les statuts 1, elle serait de toute façon pas majoritaire.
Sachant que, à mon sens, l'association n'a pas vocation à faire des augmentations ou des diminutions de capital, régulièrement, si vous voulez.
D'accord.
Je ne pense pas que ce soit le mode de sortie d'entrée dans la société opportun. Pour vous. Non, à mon avis, il vaut mieux faire des sessions de part à partir du moment où on crée un lien totalement fictif, on l'a bien évoqué, hein, c'est-à-dire que quand vous avez 10% des parts, c'est pas pour ça que vous avez 10% des appartements mais qu'au moins dans votre esprit ce soit clair et que ça corresponde à quelque chose, si vous voulez, ça va être sûr. Et qu'à partir du moment où on fait ce lien virtuel, hein, un peu de entre la proportion, le nombre de parts qu'on détient et le nombre de biens qu'on utilise, je pense que ce serait plus audace de faire comme ça.
Mm-hmm. Ouais. Ok.
Après.
En termes d'apport, il y aura à peu près combien
l'apport donc en capital.
En capital, oui.
On ne sait pas. Enfin, ça dépendra de. Voilà, nous on était parti sur des. Je ne sais plus, dans le tableau, le dernier tableau qu'ils ont envoyé, on était parti sur. C'était 11 000 euros en tout pour les. Enfin, on était 11 à l'époque, donc on va dire 10 000 euros maintenant, et donc c'est peut-être 10 000 euros pour l'association. Mais la bancaire nous pousserait à plutôt multiplier ça par 10. C'est-à-dire plutôt que d'avoir des parts à, je crois qu'on les avait fixées à 100 euros, que les parts soient à 1 000 euros. Pour que quelqu'un, donc, puisque nous on pensait que chacun mettrait en fait 1 000 euros, ils mettent donc 10 000 euros chacun, et comme ça serait 10 000 euros qu'un nouvel entrant pourrait emprunter à la banque.
Mais en fait, c'était son argument. Que vous faites je sais pas, 10 000 parts de 1 euro ou.
Oui, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut qu'il y ait une valeur nominale des parts plus élevée.
Voilà.
Elle veut une valeur nominale des parts, si je suis son raisonnement, hein. Elle veut qu'il y ait une valeur nominale des parts plus élevée parce qu'elle part du principe que le jour où un nouvel entrant va vouloir racheter les parts d'un cédant, il pourra emprunter, c'est un peu idiot, il pourra emprunter que le montant de la valeur nominale, ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'il peut emprunter le prix de cession, hein, à quelque sorte son usage. Entre un entrant et un sortant, dans 10 ans, vous allez avoir un prix de cession qui va être fixé, qui va correspondre à la valeur réelle de ce qui va être cédé. D'accord.
Oui. Mais non, pour moi, c'est là où c'est vraiment pas clair. Parce que le prix de cession, si les parts sont à 1 000 euros, mettons, le prix de cession, ce sera 1 000 euros plus une petite plus-value ou quelque chose comme ça. Et ensuite, donc, la personne qui rentrera, elle devra rembourser ou apporter en concurrence que
plus
nous,
un peu plus compliqué. C'est-à-dire que, en réalité, vous allez normalement, imaginons qu'il y ait une cession dans 10 ans par l'un d'entre vous. Le prix de cession, c'est la valeur réelle de la part, ou la valeur que vous allez fixer pour cette part, parce qu'on a toujours dit qu'il ne fallait pas qu'on soit sur la valeur du marché. Si vous voulez, vous allez fixer une valeur de cette part qui va correspondre à l'estimation que vous espérez maintenir de l'immeuble, moins ce qui reste dû au passif. D'accord ? C'est ça, la valeur de la part. Voilà. Et donc ça, c'est le prix que va devoir payer l'acquéreur. Et ce prix va se décomposer en deux parties. Il va y avoir d'une part le fait qu'il prenne en charge le remboursement du compte courant de celui qui cède. D'accord. Celui qui va céder, imaginons que ses parts vaillent 100 000, par exemple, d'accord, le jour où il cède, mais qu'il ait dans la société un apport qu'il a fait à un compte courant, il a fait un apport 60 000 en compte courant. L'acheteur, celui qui va lui payer à lui 60 000 au titre du remboursement de son compte courant, et va lui payer un prix de cession de part de 100 000 moins 60 de 40 000. D'accord. Il va payer 100 000 au total, l'acheteur.
Non, ça, je n'ai pas compris. Enfin, c'est là aussi, pour moi, c'est pas très clair. Imaginons qu'au départ.
Il faut vraiment être concret au niveau du bien. Moi, je pense que ce sera plus facile, peut-être, de voir les choses. Si, par exemple, on part sur le bien, on met 1 000 parts, mettons. On est 10.
Oui.
Hein, donc, ça fait 100 parts chacun.
100 parts chacun. Imaginons qu'au départ.
Oui, 100, excusez-moi, 100 par chacun.
100 par chacun, et que chaque part, on les fixe à 1 000 euros. Donc, ça veut dire que, personnellement, je mettrais 1 000 euros sur la table pour.
Au niveau de la constitution du.
Voilà.
Du capital.
Voilà. Donc, dans 10 ans, si je quitte, et puis, bon, moi, j'ai un apport de 150 000 euros. On va en partir peut-être là-dessus, ou peut-être 100 000 euros, on va dire 100 000 euros, ça sera plus simple pour des calculs. Donc, on va donc dire que je mets 1 000 euros en capital et 100 000 euros en compte courant. Dans 10 ans, mon cheval, comment ça se passe?
Vous allez réévaluer le bien.
D'accord.
D'accord, c'est normal. Mm-hmm. Et le bien, à ce moment-là, on va estimer que votre part, ce que vous vendez, vaut 200 000.
Ça pourra passer de 1 000 euros à 200 000.
Ah non, les 1 000 euros, c'est la valeur nominale de la part. Elle ne changera jamais. Mm-hmm. D'accord. Ce qui va changer, c'est. Le patrimoine dont est propriétaire la société et dont vous avez effectivement 1%.
D'accord, mais donc imaginons donc effectivement que ça correspond, mes 1000 euros de mes parts correspondent à 1%. Mm-hmm. Oui. Donc dans 10 ans, si on a, allez soyons fous, on n'aura pas complètement remboursé le bien, mais avec la croissance, je ne sais pas quoi, imaginons que voilà, notre actif soit 2 millions d'euros.
Oui.
Donc à peu près le prix actuel de l'immeuble actuellement. Donc on prend 100% de 2 millions d'euros, donc ça fait 20 000 euros.
Tout à fait.
Donc mais ma valeur réelle dont vous parlez, ce sera 20 000 euros.
C'est 20 000 euros. Mais voilà. Il faut également que l'acheteur vous rembourse le compte courant
voilà.
que vous avez mis dans la société.
Et c'est là que, par rapport à ce que vous expliquez, c'est que donc le nouvel entrant, qu'est-ce qu'il va faire donc,
il va vous payer
les 100 000 euros de mon compte courant.
Il va payer 150 000.
120 000
non. Votre compte courant, il est à 150.
Non, on a mis 100 000 juste pour simplifier les calculs.
100 000, excusez-moi. Il va vous payer 100 000 au titre du compte courant.
D'accord.
Ou à l'accès dans la société, ou à vous directement, peu importe, si vous voulez. Et 20 000 à vous au titre d'épargne. D'accord. Et pourtant, vos parts, au nominal, elles seront toujours de 1 000 euros.
Il achètera toujours 1 000 parts ou 100 parts de 10 euros.
10 parts de 1 000 euros, ouais.
Mais en
10 parts
de
100 euros, tout à fait. Donc 1 000 euros. Il achètera au nominal 1 000 euros, mais pour acheter ses parts qui ont un nominal de 1 000 euros, il va débourser 20 000.
C'est le même mécanisme que tout à l'heure pour l'augmentation de capital. Oui. On disait que on va souscrire de nouvelles parts de 10 euros, mm-hmm. mais que compte tenu de la valeur de la société, les parts en fait coûtent plus cher aujourd'hui et il serait injuste de faire rentrer dans 10 ans des personnes à la même valeur que vous rentrez aujourd'hui. Donc il faudra qu'ils mettent 10 euros pour souscrire la nouvelle part, plus peut-être 40 euros qui est en prime d'émission, qui vont aller dans un compte particulier prime d'émission.
Mais donc votre acheteur, il faut qu'il vous paye 20 000 il faut qu'il vous paye 20 000 pour acheter vos 10 parts qui ont une valeur nominale de 100 euros, d'accord. Il faudra qu'il paye en plus votre compte, qu'il rembourse votre compte courant à votre place.
Mais et donc pour la banquière, le problème, c'est que cette nouvelle acquéreur ne pourra emprunter de l'argent que pour les 20 000.
C'est là où on disait que.
Oui. Oui et non. C'est vrai, le problème c'est qu'il peut emprunter en fait pour la totalité. La difficulté c'est quelle garantie la banque va pouvoir prendre sur ce nouvel acquéreur, si vous voulez. Parce que grosso modo cet acquéreur il peut nantir ses parts, nantir c'est vous donner vos parts en garantie. Seulement si vos parts valent 20 000 euros, le banquier il aura un petit peu de mal, si vous voulez, à prendre en garantie d'un prêt de 120 000 dans votre hypothèse des parts qui n'en valent que 20. Voilà. Après, si le banquier est intelligent, mais ce n'est pas forcément toujours facile à faire comprendre au niveau des surfaces, s'il comprend qu'en réalité l'opération s'analyse dans une dépense pour votre acheteur de 120 000 pour devenir propriétaire de quelque chose qui vaut effectivement largement ça, si vous voulez, parce que le jour où la société vendrait, ça veut dire qu'elle devrait à cette personne-là
les 100 000 de
compte courant.
Voilà.
Mais.
Le porter caution et notamment justement ce qui permettrait de
pallier
ce problème.
Mais
ça
l'a mis
justement.
Si, oui, moi j'ai lu ça, une histoire de caution.
J'ai trouvé que c'était pas idiot justement.
Ah, mais je l'ai tellement dans l'objet, non. Je
sais pas si. Si, il exprimait, précisait que la société pourra occasionner des aides gratuites données en garantie sous forme d'hypothèque. Non, ah oui, c'est un peu différent. Porter caution d'un prêt.
Là, c'est la clause habituelle, celle qu'on met tout le temps.
Oui.
Mais là, ils avaient prévu une clause où ils disaient que la société peut également se porter caution des engagements souscrits par les associés pour la réalisation de l'objet social ou à titre occasionnel et gratuit, se porter caution d'un prêt consenti à l'un des associés ayant pour objet le financement de l'acquisition de parts sociales de la société. Donc là, ce serait la société qui
garantirait.
Voilà.
Et là, c'est uniquement pour les parts.
Pour les parts,
c'est
ouais.
aussi que pour les 20 000 euros. Dans
non, parce que dans votre acheteur, il emprunte les sommes nécessaires. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis mal exprimé sur les montants, mais il emprunte globalement 120 000, si vous voulez. Il y en a 20 000 qui vont être utilisés à payer les parts et 100 000 qui vont être utilisés à rembourser le compte courant. Mais globalement, son financement, il porte sur 120.
D'accord.
Et la société peut lui garantir un prêt de 120 000.
Sur les 120 000.
Bien sûr.
D'accord. Donc ça serait intéressant, parce qu'en plus, je pense que ça rassurerait bien la banquière, parce qu'elle saurait que les nouveaux entrants pourront rentrer assez facilement, parce qu'elle, son inquiétude, c'est qu'un nouvel entrant, il n'est pas les 120 000 euros.
Oui, tout à fait.
Et s'il peut emprunter que sur 20 000, il ne pourrait pas y avoir un nouvel entrant.
En fait, je vous ai dit que, au début, je n'avais pas retenu cette rédaction, parce que j'étais un peu embêtée par la société qui se porte caution pour les associés, parce que normalement, c'est interdit. Mais est-ce que c'est interdit qu'en matière commerciale, en société civile?
C'est interdit en matière commerciale, en société civile, c'est pas recommandé, sauf si ça participe à la vie sociale.
Là, dans ce cas-là,
voilà, c'est pour rentrer dans la société, c'est normal.
D'accord,
non,
ça pourrait être. Et Et donc, pour rappeler tout ce qui est augmentation et réduction de capital, c'est une opération qui devait intervenir, c'est une décision qui est en assemblée générale, un pourcentage de décision qu'on va décider. Donc là, dans les statuts prévoyaient les trois cas, mais on peut prévoir aussi que, faille que l'association soit d'accord avec ce vote pour que l'opération intervienne, ce qui laisse quand même un contrôle de la société. Parce que c'était un point un peu plus début, vous voyez quand même que l'association garde quand même le contrôle de la société.
C'est pour que ce soit elle qui ait le contrôle.
Parce qu'il y avait deux choses. Le contrôle juste en termes des opérations à intervenir peut être, on peut adapter les statuts sans qu'elles soient majoritaires. Mais le côté majoritaire, c'était aussi pour maintenir la valeur
du bien.
Du bien.
Voilà, un double objectif.
Voilà.
Parce qu'effectivement, on pouvait donner à l'association une minorité de blocage, comme ça, si vous voulez, qui fait que si les voix de l'association n'étaient pas acquises, la décision ne pouvait pas être prise. Donc quelque part, sans être majoritaire, ça donnait un droit de veto qui empêchait la décision. Par contre, le droit de veto, c'est un droit de veto. C'est pas quelque chose qui permet d'accepter de décider quelque chose, ça va uniquement de vous opposer à quelque chose. Donc d'abord, c'était un peu moins sécurisant, et puis effectivement, ça ne règle pas ce problème de valorisation, etc.
Parce qu'effectivement, c'est ce que la banquière nous avait proposé, donc c'est là qu'on a expliqué que nous, voilà, ça a remplacé qu'une de nos deux objectifs.
Donc voilà, après là, le pourcentage, donc j'ai pu vous indiquer, c'est l'Assemblée Générale Extraordinaire pour toute opération. Il y a une voix dans la partie sur les Assemblées Générales Extraordinaires à quel pourcentage sont adoptées, et ça, on affinera le pourcentage une fois qu'on connaîtra la répartition du capital social. Donc, après l'article 10 sur la revendication par un conjoint en bien de la qualité d'associé.
Vous ne traumatisez pas, non plus. Excusez-moi, c'est des problèmes de mode communauté de biens, de régime interne qu'on a évoqué.
Effectivement, c'est bien de. Enfin, apparemment, c'est classique, il faut de toute façon que la personne ait l'agrément.
Oui, c'est pas. Il y a plusieurs points là-dessus. C'est. Déjà, que la personne qui est mariée sur un régime communautaire consente à ce que son conjoint apporte des liens communs à la société. Et après, il a droit à la qualité d'associé pour la moitié. Ce qu'on fait, nous, habituellement, et je trouve que c'est mieux, c'est qu'on fait renoncer chaque conjoint. En fait, l'apport qu'un couple aurait fait 10 000 euros, je vais le diviser en deux. Et chacun des époux va apporter 5 000 euros. Et le conjoint va renoncer à sa qualité d'associé pour les 5 000 euros, les 5 000 parts. Comme ça, ils sont finalement, par la communauté est propriétaire finalement des 10 000 parts qui sont peut-être échangées des 10 000 parts de 20 euros, mais ils sont chacun propriétaires et voteront en assemblée au titre de leur 5 000 qui leur appartient finalement.
C'est pas en propre, c'est là que c'est un peu bizarre. Parce que si vous voulez dire, dans les parts, il faut quelque part distinguer le financement de ces parts, la valeur de ces parts qui dépend forcément, même si des parts, pour des gens mariés en communauté, même si les parts sont au nom de l'un des époux, les parts sont communes.
D'accord.
Donc la finance, on appelle ça le titre et la finance, la valeur des parts, la valorisation est commune. Par contre, celui qui exerce les droits de vote à l'Assemblée peut ne pas être la communauté ou le couple, si vous voulez. Donc on peut très bien prévoir que monsieur a 5000 parts, madame a 5000 parts, ils votent chacun de vote. Par contre, leur valeur globale dépend de la communauté existante entre eux. Vous voyez la distinction? Il faut distinguer la finance, de l'exercice des droits d'associés qui, là, sont spécifiquement réservés à celui qui est nominalement associé. D'accord.
Ok.
Voilà. Ensuite, pour les articles qui vont être intéressants aussi, c'est pour les cessions de parts, justement. Donc, c'est l'article 12. Donc, là encore, il faut prévoir un agrément. Personne ne peut rentrer dans la. On ne peut pas rentrer un tiers sans qu'il soit agréé par la collectivité des associés. Et là aussi, je pense qu'il faut prévoir un pourcentage comme pour les augmentations, c'est-à-dire que finalement, c'est la fondation. Enfin, le vote de la fondation doit être favorable pour que.
La seule question finalement, c'est imaginons que l'association, vous décidiez de lui donner 60% des voix. Par exemple, ça serait peut-être un bon chiffre, vous voyez, l'association. Donc, imaginons qu'elle ait 60% de façon presque statutaire, puisqu'on modifierait comme ça. Est-ce qu'après, l'agrément de l'association seul suffit? Donc, est-ce qu'il suffit d'avoir 60% des voix? Ou est-ce qu'on impose un agrément supérieur, donc association, plus forcément à titre individuel quelques personnes? Vous allez me dire, ça va forcément se recouper un peu, puisque dans l'association, on aura les mêmes que. Voilà. Donc c'est possible, mais après ça sera à vous de nous dire, est-ce que vous souhaitez que finalement l'association, si l'association donne son accord quelque part, ça suffit, ou est-ce que vous voulez qu'il y ait un agrément encore plus important. On peut aller à l'extrême, que je ne vous recommande pas, ça serait de dire il faut l'unanimité des autres, hors celui qui cède, vous comprenez. Là ça devient un peu plus lourd, c'est-à-dire que quelqu'un qui dans l'association serait contre, n'aura pas de droit au chapitre parce qu'il serait minoritaire dans l'association, donc la voix globalement de l'association serait favorable à l'entrée d'un nouvel associé, malgré l'opposition d'un sociétaire, d'accord. Mais par contre, ça lui redonnera un droit de vote ou un droit de veto dans la société au titre de ses parts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas, je ne vous recommande pas, si vous voulez, d'avoir un agrément à unanimité. Mais entre l'unanimité... Or, c'est parce que les parts de l'association, peut-être que c'est, je ne sais pas si c'est souhaitable, peut-être que les parts de l'association, mais ça c'est à vous de nous dire.
On avait décidé des choses au niveau du mode de décision.
Oui, de toute façon, nous, au sein du... Et puis oui, et même aussi au niveau du... Dans le cahier des charges qu'on vous avait transmis, ça c'est une réunion qui date d'il y a un moment, mais effectivement, on avait discuté un petit peu tout ça, de quel niveau on voulait que tel type de décision, tu peux rappeler
Une décision ordinaire, donc avec le consentement de chacun des participants présents, y compris par téléconférence, quorum de 75%. Et décision extraordinaire, vote à la majorité des 3/4 des votes exprimés, là on avait mis un point d'interrogation, quorum 75% des membres choux.
Et ça, mais il me semble que dans une de nos rencontres ultérieurement, vous nous avez dit que les décisions par à distance n'étaient pas possibles.
Je ne suis pas sûr que ce soit juridiquement possible.
Non, voilà. Mais bon, l'idée était surtout, et à l'époque, on n'avait pas encore eu l'idée, donc par d'autres projets avaient été groupés, de l'association. Mais l'idée était principalement, effectivement, que de toute façon, au sein de l'association, les statuts fixeraient que ce soit des décisions par consentement consensus. Et donc, de toute façon, on pourrait toujours négocier.
Et vous allez avoir deux majorités successives. Voilà, vous allez avoir une première décision à l'intérieur de l'association.
D'accord. Qui, elle, est censée se faire au consensus.
Voilà.
Et après.
Et une deuxième à l'intérieur de la société, où l'association a
une majorité.
Voilà. À déterminer.
Mais à déterminer. Ça, il faut qu'on en discute.
Parce que là, effectivement, ce que vous nous indiquez là, c'est effectivement les quorums, et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est le nombre minimum de personnes qui doivent être présentes, si vous voulez. Il faut qu'on ait au moins 75% des voix. Si vous avez l'association qui en a 50, il suffit donc qu'il y ait la moitié des associés physiques, finalement, qui soient présents. C'est une bonne règle, ça, si vous le savez bien. Après, comment on vote? Encore, il faut que ce soit vous qui nous précisiez. À l'intérieur de chacune des structures, chaque centre d'association, c'est votre problème, je me comprends bien, mais comment vous voulez finalement que ça ressorte? Et de quelle importance doit être le bloc de l'association? Est-ce qu'il est à 50? Est-ce qu'il est à 60? Est-ce qu'il est à 66? Ça fait un peu beaucoup après, si vous voulez 60 aussi, peut-être. Peut-être qu'à 50,
ça, je sais pas. Ça, c'est les pourcentages qu'on va décider une fois qu'on sur l'aspect apport, on sera un peu plus. Arrêter, en fait, quand on aura exactement
après. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que comme on doit toujours penser qu'on a une première version des statuts et une deuxième après, si on se contente d'exprimer effectivement ce juste, qu'il faut la majorité des voix, et si on fait en sorte que dans la deuxième version de statut, après financement, on fait en sorte que l'association ait au moins 50% ou 51% des voix.
Cette majorité voudra se dire l'association.
Voilà, ça veut dire ça. Il faudra forcément que vous envisagiez les majorités que vous voulez évoquer avec cette perspective toujours.
Hein. D'accord. Donc ça,
qui sera peut-être suffisante d'ailleurs, hein, puisque par définition, après tout, si l'association est d'accord, ça veut quand même dire que normalement, la majorité, l'essentiel des associés est d'accord aussi. Hein.
Donc, travailler sur quoi? Sur les majorités?
Sur les majorités, oui. Ben, c'est ça, moi,
les deux majorités successives. Voilà, mais ça, c'est pas très rigolo, ça, c'est facile, quoi.
Ok.
Donc, comme nous, on distingue que ce soit les sessions entre vifs ou par VC, là, pareil, comment vous envisagez il y a une famille, les deux parents décèdent dans un accident de voiture.
On avait aussi ça dans notre cahier des charges, c'est on veut que ça soit aussi agréé par le groupe.
Oui, parce qu'on.
C'est-à-dire que.
On disait oui, qu'il n'y avait pas de. Enfin, le droit de succession n'est
pas automatique.
N'est pas automatique.
Et il me semble que c'était prévu, dans ce que vous nous avez proposé, parce que.
Oui, on peut voir l'agrément des. Alors, C'est l'article 15.
Donc l'agrément en quelque sorte qu'on prévoirait pour les sessions serait exactement le même que pour les sessions.
Oui. D'accord. Là j'ai l'impression qu'il était un petit peu différent quand même. Mais je ne sais pas si c'est moi qui m'a compris ou s'il y avait quand même, mais bon, ça sortait des détails.
Ça, c'est des sessions. Oui, parce que là on prévoit toujours que les sessions entre vivres, on prévoit que les sessions entre associés sont libres d'agrément. C'est-à-dire qu'on ne va pas prévoir un agrément.
Alors là, j'avais quand même une question, mais je pense que c'est à nous de travailler d'abord. On est encore en discussion sur est-ce qu'on veut des. Mais vous allez peut-être pouvoir quand même nous aider. Est-ce qu'on veut que nos parts soient plus ou moins proportionnelles à la surface qu'on occupe, ou est-ce qu'on veut que chacun ait exactement le même nombre de parts? Il y a par exemple des projets d'habitat groupé où chaque personne physique ne peut avoir qu'une seule part. Et donc comme ça, ils sont sûrs que un individu va pas avoir. Ils ont tous en quelque sorte le même nombre de voix. Enfin, puisque...
Alors là, je pense qu'il y a un article qu'il va falloir qu'on travaille énormément et qu'on n'a pas prévu là pour l'instant. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est les différents types d'associés et les droits qui leur sont donnés. Si vous voulez. Et là, il faut, on risque de parler dans le vent, si vous voulez. Il faut d'abord qu'on travaille un peu. C'est est-ce qu'on peut prévoir justement différentes qualités d'associés, appelons-les, moi j'appelle ça les résidents et les participants, celui qui serait par définition non résident. Et quels sont les droits de vote que peut avoir chacun? On peut, si vous avez un nombre d'appartements, qui sont, ils ont tous la même taille à peu près. Hein.
Ça va pas beaucoup, ça va de genre 30-35 mètres carrés, enfin 30 mètres carrés, un studio à 90, je crois que
c'est. Oui, quand même, 3 fois plus. Hein.
Ouais.
Moi je pense que l'esprit de votre association, mais je peux me tromper, enfin, de votre groupement, c'est quand même l'égalité entre les propriétaires, quelle que soit la taille de leur logement. Aussi.
Voilà.
Il me semble avoir compris ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 30 mètres carrés, à partir du moment où il a un logement, il n'a pas forcément plus de voix ou moins de voix que celui qui a un appartement de 90 mètres carrés parce qu'il a une famille plus grande. Quoi. Ça me semble être votre philosophie. Voilà. Donc il serait assez logique qu'ils aient qu'un seul droit de vote. Moi je pense qu'il faut enfermer les droits de cession entre associés dans les mêmes conditions d'agrément qu'un étranger. Je vous explique pourquoi. On prévoit généralement les statuts de SCI prévoient que pour qu'un nouvel étranger, un associé extérieur rentre, il doit être agréé. Que si jamais on a une succession, les enfants doivent être agréés de la même façon. Ça me paraît normal. On prévoit généralement dans les statuts de SCI que par contre, entre associés, puisque l'associé a déjà été agréé, les cessions sont libres. Par définition, puisqu'on a la faible. Je ne suis pas certain que ce soit opportun pour vous. Parce qu'il ne faudrait pas. Allez, j'envisage le pire, un associé malfaisant qui rachète les parts de plusieurs et qui ainsi devient, contre votre gré, prédominant,
voilà,
si vous voulez, dans la société, un peu avec la. Parce que finalement, il arrive en sous-loyer 3 ou 4, en leur rachetant leur part en sous-main plus importante que déclarée, et qu'un jour, sans vous en apercevoir, vous ayez un associé qui prenne le compte, enfin le contrôle, parce que dans l'association, il aura du mal, mais que quelqu'un rachète des parts comme ça, ça ne me semble pas être opportun. Si vous voilà. Après, par contre, la suite de la question que vous évoquiez tout à l'heure, je pense que ce serait un logement, une voix, je vous l'avais dit un peu. La question, c'est si deux logements, est-ce qu'on a deux voix ou pas? Ou est-ce qu'on en a toujours qu'une? Vous voyez ce que je veux dire? Là, je n'ai pas la réponse pour vous.
Mais en fait, si quelqu'un qui rachèterait les parts d'un autre n'aurait pas son logement, il serait toujours que résident d'un seul logement.
Il n'y a pas de lien direct, si vous voulez. Donc, y en a un que intellectuellement tout le monde conçoit à peu près, mais qui n'est pas juridique, mais réel, vous comprenez?
Et nous, notre idée, de toute façon, c'est un homme, une voix, en fait.
Voilà. Voilà. Quel que soit son nombre de logements.
Voilà. Ouais, son nombre de parts.
Ça me semble plus logique dans votre esprit.
Et donc, dans ce sens-là, voilà, certains invités ont choisi de fixer que chacun des lignes pouvait avoir qu'une seule part. Hein. Alors, est-ce que c'est une
voix? C'est pas forcément qu'une part, c'est qu'il y ait qu'une voix.
Une voix, voilà, ouais. Donc, oui, on peut associer les deux et il pourrait avoir.
Ça, c'est possible.
Ça, c'est possible pour
les personnes. Parce qu'au début, je pensais que c'était pas possible, mais j'avais vérifié après en société civile. C'est possible, et je crois même que en fait, c'est la règle. Donc, vous voyez, par mon développement, je crois qu'en société civile, C'est même la règle et c'est. Alors attendez, je vais.
Parce qu'on nous a toujours dit, oui, c'est.
Oui, plutôt, moi, je n'ai pas sur le point.
On ne
fait
pas.
On fait jamais.
On fait totalement à l'heure. Je vais retrouver ce qu'il y a beaucoup d'articles. Les collectivités. J'avais des surprises même.
Il faut en faire des choses à la porte de l'habitude.
Eh oui, en fait. Alors, en fait, c'est pas dans le code, il devait être dans un livre. Je retrouverai, mais je vois. Mais oui, j'avais des choses.
Si vous pouvez en envoyer une copie, ça serait pas mal. Hein. Ouais. Parce que tout le monde, enfin, même la banque, hein, ils nous disent aussi que.
Oui, mais voilà, c'est une première réflexion. Ouais,
on a une liste de diffusion sur tous les habitats de France regroupés, et quand une fois j'ai posé la question, on m'avait répondu que les banques refusaient qu'on mette dans une SCI un individu, une voix, parce que ça créait des déséquilibres pour eux. Alors qu'en fait, finalement, ça irait à la.
C'est exactement le même esprit, la même, comment dire, la même logique que celle qui veut que vous n'ayez pas. De l'association majoritaire, si vous voulez, que les comptes courants, que les apports dans votre structure des apports en capital systématiquement. Finalement, ce que veut votre banquière, c'est qu'il n'y ait pas de compte courant et que les apports réels de chacun soient des apports en capital.
Oui, parce qu'ils veulent en cas de problème pouvoir se retourner contre les majoritaires, enfin ceux qui ont le plus de votes, mais le plus d'argent.
Tout à fait. Donc ça, à mon avis, c'est un article à retravailler et ça va être presque l'article essentiel, ça va être celui-ci. C'est quelles sont les catégories d'associés. Est-ce qu'on a donc le résident et le participant? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a les droits de veto? On peut prévoir ça, des associations en l'occurrence. Et deuxièmement, quels sont les droits de vote de chacun et pour quel type de décision? Et un homme, une voix, si on peut le faire, effectivement, ça me paraît conforme à ce que vous souhaitez.
Voilà.
Par contre, si on met ça, association, une voix. Excusez-moi, je réfléchis au faire de
la fonction. Il faudrait faire une distinction entre personne morale et personne physique pour la.
Enfin, en vrai, je pense pas. Ça
je pense pas, puisque à mon avis, si tout le monde a la même. Ça, c'est sûr. Mais effectivement, l'effet pervers, c'est ça. Alors, on peut toujours donner un droit de veto à l'association, vous allez me dire, qui fait que si c'est pris sans son accord, elle se. Mais.
Ouais, ça change la perspective de ce que
alors, peut-être qu'on peut effectivement. Comment dire. Faire. C'est une part, une voix, c'est d'aller faire très peu de parts. Une part par appartement. Et finalement, le risque que vous avez, c'est qu'il y ait une personne qui est deux parts, donc deux voix, au milieu sur un total de 40, par exemple, comme je disais tout à l'heure. Si on imagine une part par appartement, et que l'association a la moitié des parts, donc ça fait 40 parts, par exemple. Hein. Vous avez quelqu'un qui a deux parts sur les 40, c'est pas ça qui va lui donner un rôle déterminant. Hein. Est-ce que c'est pas un petit sacrifice à faire pour qu'effectivement l'association puisse rester majoritaire?
Ouais. C'est-à-dire une voix, une part, c'est ça?
Ben, si on met une voix, une part, vous allez avoir l'association, elle ne peut pas avoir plus d'une part, plus d'une voix.
Oui, et donc la solution que vous dites?
La solution que je dis, effectivement, c'est, ben, vous avez raison, c'est une part, une voix, et bien à ce moment-là, chaque part correspondant à peu près, si vous voulez, à un appartement, sauf pour l'association qui en aurait par définition autant que tout le monde.
Donc l'association aurait
20 parts sur 40, par exemple, ou 21 sur 40, 21 par exemple, hein, 21 sur 41, on prévoit ça, de façon à avoir une majorité, hein, de courte mais existante, 21 sur 41, et qu'après on a 20 parts qui correspondent à chacun un appartement et un associé résident, de quelque sorte.
Oui, donc c'est si l'association a 20 parts, donc il faut financer ses parts aussi.
Oui, c'est un détail.
Oui, mais comme c'est du capital, c'est très fait. Par contre, ça veut dire que si on fait ça, on n'a pas de part pour un participant.
Parce que pas forcément.
Voilà. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il faut prévoir effectivement un autre type d'associé, dans un autre type de vote. À ce moment-là, il faut prévoir ce qui est du ressort de chacun.
Ouais. Ok.
Ou prévoir un collège. Collège des participants, ben, je ne sais pas, on a juste dit là, c'est peut-être n'importe quoi ce que je vous dis, hein, qu'effectivement on a 20 parts. Peut-être qu'il faut raisonner un peu plus loin, sans y avoir pensé avant. en disant finalement, on a 20 parts pour les appartements. Mm-hmm. D'accord ? Imaginons qu'on ait 10 parts pour les participants. Les participants, on les fixe à l'avance, c'est ça qui est un peu gênant, si vous voulez. Et donc on a 20 plus 10, ça fait 30. Et puis l'association nous donne autant que tout le monde, donc 60 parts, pareil, 30 parts, si vous voulez, comme tout le monde. Ce qui me gêne, ce qui est l'avantage de là, c'est qu'on fixe les règles à l'avance. Effectivement, on détermine qui a quoi. Seulement, les participants, je les quantifie d'entrée. Ça, c'était pas souhaitable.
Oui, ça fait mieux que...
Mais par contre, si je le fais pas, ça veut dire qu'il va falloir qu'on détermine un certain type de vote auquel seuls les résidents prendront part, et un certain type de vote auquel tout le monde pourra prendre part, participant et résident. D'accord ? Et il faudra toujours prendre garde à ce que, dans chacun des votes, l'association est toujours la majorité, aussi bien dans les votes de résidents que dans les votes de résidents plus participants.
Mais je pense qu'il est indispensable effectivement de faire cette distinction entre les deux groupes et donc de prévoir que dans tous les cas, l'association sera
majoritaire.
Parce que c'est clair que les habitants vont devraient pouvoir prendre des décisions que ne pourraient pas prendre
les résidents.
Les participants. Ouais. Donc ça, il faut qu'on.
Est-ce que vous sentez possible de limiter le nombre de participants?
Ça m'a l'air plus difficile, hein. Parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un veut soutenir le projet a posteriori ou.
C'est-à-dire comment ça, les participants?
Les participants, là on n'entend pas participants,
les non-résidents,
on va dire les sponsors,
le problème,
mais les partenaires.
Je trouve que ça serait bien de fixer, mais c'est quasiment, à mon avis, impossible, parce qu'ils vont varier de zéro à l'infini. On peut imaginer qu'il n'y ait aucun participant extérieur, qu'il n'y ait que des résidents. Donc, finalement, quelle voix, quel statut on donne à ces résidents-là, à ces participants, et comment fait-on pour que d'entrée, l'association ait forcément un droit majoritaire, même en les intégrant. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a une articulation qui n'est pas facile à trouver. Si je ne détermine pas la quantité d'entrée, je pense qu'on aura un peu de mal à fixer la majorité, le nombre de parts de l'association pour qu'elle soit majoritaire. Ou alors, encore une fois, on se contente d'un droit de veto donné à l'association. Mais c'est peut-être pas tout à fait ce que vous souhaitez.
Non.
Et en même temps, si je donne des droits aux participants, il faut bien qu'ils les aient, ces droits. Mm-hmm. Donc qu'ils aient une part pour certains votes, ou qu'ils aient un droit pour certains votes quand même. Et ce droit doit être compensé toujours par un montant égal de l'association. Je l'exprime à peu près.
Oui. Je pense qu'il va falloir qu'on en discute.
Ah, je crois qu'il y a un coup sur le dimanche.
Oui, il y a un dimanche qui va y passer.
Bah, il fait moins beau que pour la réflexion, d'ailleurs.
Après, pour l'autre clause qui est un peu avante, c'est un petit bon, parce que c'est essentiellement des clauses habituelles, dissolution inversement morale, les fusions, les règles. Alors, on en était à l'article 15 sur l'imitation par VC.
Moi, j'en étais à 14, puisque tu avais noté des choses à 14. Donc, alors, les parts sont librement cessibles entre associés, donc là, c'est à discuter.
C'est ce qu'on vient d'évoquer, là, justement, ça va tout ça, ouais.
Donc, mais ça, c'est obligatoire ou c'est libre, ça?
Pas du tout.
C'est là que
ça fait partie de la discussion globale qu'à mon avis, il faut avoir sur qui va être associé, comment, avec quel droit.
Voilà. Alors, 14.2.3, le projet de cession est notifié avec demande d'agrément par le cédant par lettre recommandée.
Oui, c'est relevé à cet endroit-là, mais ça apparaît à plein d'endroits. Il y a un projet d'avis regroupé où il mettait, à chaque fois, il mettait par lettre recommandée ou par.
Remise en main propre.
Voilà, remise en main propre, des choses comme ça.
Oui, sur ce
point-là. C'est pour ça,
pour simplifier
les démarches, surtout si on est tous dans le même immeuble, enfin, on va pas se rendre.
Le seul intérêt à la lettre recommandée, c'est qu'il formalise les choses avec une date. Mm-hmm. Voilà. Mais si vous faites une remise en main propre, il faut qu'il y ait un récépissé.
Voilà,
parce que dans tous les cas, toutes ces questions-là sont liées à des délais. Mm-hmm. C'est pour ça que la lettre recommandée, donc c'est lettre de remise en main propre avec récépissé, pour qu'il y ait un délai qui commence à courir, si vous voulez.
Okay. Voilà, donc après la fin de l'article, oui, tu mettais en commentaire possibilité de remise en main propre contre récépissé.
D'accord.
Voilà. D'accord. Alors ensuite, 14.4, tu as surligné la proposition n'est retenue qu'accompagnée du versement du prix offert entre les mains du notaire désigné par la gérance et consigné des frais dus à celui-ci.
Oui, alors là, j'avais effectivement une petite question, c'est que si j'ai bien compris ça, c'est que quelqu'un qui voudrait se porter acquéreur, il faut qu'il, quand au moment où il annonce qu'il veut se porter acquéreur, qu'il place à la chez le notaire.
C'est un petit peu difficile parce que
si c'est quelqu'un qui veut emprunter de l'argent pour le faire, ça ne va pas. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que j'avais une remarque. Hein, qu'est-ce que j'ai écrit exactement pour remarquer cette
remarque, t'as mis si un sociétaire veut emprunter pour racheter des parts du cédant.
Voilà.
Il faudrait faire travailler un peu effectivement parce que l'associé entrant, il n'a pas forcément les moyens cash.
Voilà,
au moment où il se porte acquéreur.
Le 14.4, c'est que en cas de refus d'agrément, donc on bascule sur. On bascule sur le cas où c'est les co-associés qui. C'est dans le cas de rachat par les co-associés, là.
Oui, c'est. Oui. En cas de refus d'agrément, chacun des co-associés du cédant dispose d'une faculté de rachat à la proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession de la société.
Oui, ça aussi.
Ça, pareil, il ne faut pas regarder ça.
Voilà, hein, parce que j'ai aussi, voilà. Donc quelqu'un part, effectivement, et qu'on refuse celui qu'il nous propose pour remplacer, il faut qu'on ait la possibilité, soit de trouver nous quelqu'un d'autre, mais est-ce que ce quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, ça serait bien qu'il ait quand même la possibilité de trouver un banquier, enfin de ne pas mettre tout de suite l'argent dans le cash pour prouver que ça sera possible. Et que si on n'en trouve pas, on puisse effectivement racheter entre nous, ou que la SCI rachète, je crois que c'est un petit peu dit là-dedans, mais en gardant l'esprit qu'on ne veut pas non plus que ça permette à quelqu'un de venir.
Oui, le but, ça serait encore une fois de faire racheter temporairement par la société les parts dans l'attente que quelqu'un d'autre vienne les acheter.
Mmh. Par exemple. Ouais.
Alors que le problème, c'est quand la société rachète les parts, on
est. Elle peut pas être
détruite de ses parts. Non. L'association peut les racheter.
Alors, on peut prévoir un droit de pension.
Une priorité.
Une priorité, est-ce que c'est pas le droit de pension, parce que le droit de pension va s'appliquer avant, finalement, la.
Oui, c'est en cas de refus d'agrément.
En cas de refus d'agrément,
on peut prévoir qu'effectivement, un droit de priorité à l'association pour acheter les parts. Ce serait ça le plus intéressant. Mm-hmm. Parce qu'encore une fois, si la SCI rachète ses propres parts, ça veut dire qu'on les annule. Mm-hmm. On ne peut pas maintenir les parts.
Voilà.
Donc, ce n'est pas la bonne solution. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est que le nombre de parts soit pérenne, finalement, et que si quelqu'un part et qu'on n'a pas trouvé d'acheteur, on lui rachète temporairement ses parts, le temps de les vendre à quelqu'un d'autre. Mm. Donc, la structure idéale pour faire ça, c'est l'association. Elle est là pour ça.
Il y aura du financement pour.
Mais voilà.
Pour racheter les parts, rembourser le compte courant.
Mais il faudra bien qu'elle le trouve,
c'est
un peu la réalité.
C'est l'association qui peut faire ça.
Oui.
Elle est en droit de faire ça.
Oui. Oui, comme un associé.
Oui,
oui.
Et
bon.
Si c'est aussi dans son logis social.
Donc, il faudra travailler au niveau de la.
Mais il faudrait aussi quand même prévoir qu'éventuellement, peut-être pas pour ce qui est départ, mais que par exemple, les autres associés puissent aussi racheter le compte courant du sortant. Imaginons, voilà, mon voisin décide de partir, son acheteur ne plaît pas trop, etc. Enfin, on veut retrouver quelqu'un d'autre, mais cette autre personne, elle n'a pas les moyens de mettre à la fois le capital et le compte courant, mais moi j'ai évité juste la veille, j'ai le moyen de
rappeler
son compte courant.
Dans ce cas-là, ça sera différent, ce n'est pas une session de compte courant, il faudra que l'associé sortant se fasse rembourser par la société son compte courant, et vous avancerez plus en votre compte courant, ce qui permettra d'avoir des liquidités à la société pour rembourser le compte courant du sortant.
Vous commencez par remettre au pot, et après on utilise cet argent pour rembourser l'autre.
D'accord.
Ça, c'est pas un souci par contre. Mais...
Ok. Et donc avec la possibilité que l'association, elle...
rachète la valeur nominale des parts.
Oui.
La valeur des parts est différente de la valeur nominale en réalité.
D'accord. Ok.
Donc ce serait un droit de priorité par rapport à l'association.
Oui, oui. Ça.
Vous l'avez après, dit,
Oui,
j'ai remarqué, oui. Après, on ne mettra peut-être pas là, ça parviendra pas directement dans cet article, mais c'est une procédure qui pourra s'appliquer à plusieurs qu'on distinguera.
Oui, dans plusieurs occasions, si je puis dire.
D'accord. Alors, tu avais mis un autre commentaire, là, juste un petit peu plus loin. Donc, la répartition intervient comme indiqué ci-dessus, mais dans la limite des demandes, le reliquat non affecté est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites.
Alors, c'est ma question. J'ai l'impression que c'est un phénomène un petit peu en boucle, où Si, donc, apparemment, normalement, imaginons que quelqu'un vende 10 parts, moi j'ai 10% de la société, j'ai le droit de racheter a priori 10% seulement de ces 10 parts. Mais si personne ne prend le reste, je peux racheter 10% du reste, et si toujours parce qu'il n'y a personne, en fait, finalement, je peux tout acheter.
Voilà. Oui, au final, c'est oui, c'est ça. Bah, donc, c'est ça. Oui, c'est ça, ce qui est prévu.
Oui, mais disons, plutôt que de faire racheter dans ces proportions, on prévoira justement le rachat par l'association, ça serait plus simple. Ça éviterait tout. Ça me semblerait mieux, oui.
Oui, parce que dans ce cas-là, on a rajouté un petit peu plus, on a dit qu'on a rajouté un agrément pour les cessions entre associés. Donc finalement, si moi je suis en capacité de racheter 10%, mais aussi 10%, enfin, finalement les 100% de ce que vend le nouvel entrant, il faudrait quand même que la société m'autorise à le faire.
Alors qu'avec la rédaction première, il n'y avait pas de.
Voilà. Mais pour assurer quand même effectivement qu'on ne finisse pas avec quelqu'un qui serait omnipotent.
La situation, c'est l'associé est présenté par le nouvel entrant, mm-hmm. ou il n'existe pas, mm-hmm. ou il ne vous convient pas. Mm-hmm. Donc, vous refusez l'agrément ou vous n'avez pas à le donner puisqu'il n'existe pas. Donc là, la question, c'est comment va-t-on racheter les parts de celui qui cède, mm-hmm. Si on prévoit effectivement une faculté de rachat par tout le monde à la proportion, ça veut dire que l'association, chaque fois, ne pourra en racheter que proportionnellement à sa part, donc à 50%. Est-ce qu'il est possible d'écrire ? Alors, on ne peut pas écrire l'association en tant que telle, parce qu'encore une fois, l'association, fondamentalement, c'est un associé comme les autres, si vous voulez. Est-ce qu'on peut écrire que l'associé majoritaire, qui dans la deuxième version des statuts sera nécessairement l'association, a le droit de se porter acquéreur de la totalité des parts.
Ah, mais là, c'est ce que je veux mettre là, dans le droit de priorité, voilà. C'est que droit de priorité pour le rachat de l'ensemble des parts.
Par l'associé majoritaire.
Et il n'y a que éventuellement en cas, on peut prévoir après, c'est une sorte de droit subsidiaire, si l'association, la personne titulaire du droit prioritaire ne l'utilise pas en entier ou jusqu'en partie, là, dans ce cas-là, on peut faire renaître le droit des autres associés. Le jour où vous décidez, d'agrandir un appartement, celui qui avait alors 30 mètres carrés décide de partir, il veut vendre ses titres, et que, vous voulez l'appartement qui est à côté, là, vous pourrez peut-être tous racheter, comme vous êtes tous héritiers, vous aurez tous une part chacun en plus, par exemple. Dans ce cas-là, on pourrait renoncer l'association à son achat, et le droit serait réverti sur vous proportionnellement à vos... Voilà, la fondation, elle doit aussi un petit peu. Ah oui,
il y a. Alors, ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est une convention autorisée de prévoir que ce droit de préemption, mm-hmm. de préférence, ne bénéficie qu'à l'associé majoritaire uniquement. C'est pas interdit.
Mais on ne peut plus le mettre l'associé majoritaire, on peut la nommer et dire que c'est telle personne. Parce que, quitte à créer des catégories, on peut créer une catégorie particulière pour la fondation.
J'ai longtemps parce que le texte, c'est la majoritaire qui ferait. Je trouve que ce sera presque un abus de majorité, si je puis dire.
Parce que généralement, quand on a des droits de préemption ou droits d'autorité, souvent on a des catégories d'actionnaires aussi, et on a parfois des actionnaires fondateurs qui, eux, vont bénéficier d'un droit de préemption par rapport à des actionnaires qui sont en cours par la suite.
Il faudrait que dans l'associé, on ait finalement les trois catégories. On a l'association qui a un statut à part. On a l'association, on a les résidents et on a les participants non résidents, finalement. Et à ce moment-là, on peut donner à cet associé spécifique-là, qui appartient à ce collège-là particulier, uniquement le droit de préemption.
D'accord, très bien.
C'est ça, disons que la société majoritaire, on ne sait jamais si voilà. Une manipulation ou autre, on ne sait jamais. C'est plus l'association qui est majoritaire, là, c'est tout verrouille, c'est fini. Hein.
On se retrouve à l'Olympique de
Oui.
Alors, une autre remarque aussi, le 14-12 pour le nantissement des parts sociales.
Je ne sais pas ce que c'est.
Oh, c'est un mode de garantie. Une maison, quand vous êtes propriétaire, vous pouvez la donner en hypothèque. Mm-hmm. C'est la garantie qui est prise par une banque sur une maison. Mm-hmm. Et bien, le nantissement, c'est pareil. C'est la garantie prise par un prêteur sur un titre, sur les parts de société. D'accord ? Nantissement, c'est ce qu'on prend sur les biens meubles. On prend un nantissement sur un fonds de commerce et on prend un nantissement sur des parts de société.
D'accord.
C'est
l'équivalent d'une hypothèque. C'est l'équivalent d'une hypothèque. Mais c'est pas dans le physique, quoi.
Non, voilà. C'est un peu plus virtuel parce qu'effectivement, enfin virtuel. On a quand même affiché des nantissements, des inscrits. Donc, sur les SCI, on doit tenir les nantissements pris sur les parts. Ça veut dire que celui qui est porteur d'une part, qui fait l'objet d'un lotissement au profit d'un créancier, quel qu'il soit, ne peut pas disposer librement de sa part sans l'accord du créancier. D'accord ? Donc, celui qui a le créancier nanti, il a quelque part les mêmes droits qu'un créancier hypothécaire sur un bien hypothéqué. Voilà. Si ce n'est que fondamentalement, c'est plus difficile à mettre en jeu et ça a une valeur un peu moins. Et c'est pour ça que les banquiers n'aiment pas bien en disant qu'ils ne savent pas bien ce que c'est. Ils ont du plus de mal à appréhender la valeur. Et puis un lotissement sur fonds de commerce, ça vaut ce que vaut le fonds de commerce, un lotissement sur part, ça vaut ce que vaut la part. Un immeuble, on sait ce que ça vaut. Une part, on ne sait jamais ce que ça vaut. Voilà. C'est plus flou, mais la garantie, c'est ça.
D'accord.
Donc là, vous avez mis que pour le nantissement, il faut l'agrément des associés.
C'est normal. Associés. Eh oui, parce que imaginez que par un associé qui nantit ses parts, il va le faire au profit d'un banquier, si vous laissez normal. Seulement, ça veut dire que celui qui bénéficie du nantissement peut un jour faire saisir les parts à son profit et devenir associé également.
D'accord. On se retrouve avec une banque qui est voilà. Capital. Voilà.
Alors, le problème, c'est que vous ne pourrez pas vous opposer à ce qu'un banquier nantisse les parts, parce que sinon, vous allez empêcher votre associé d'emprunter quelque part. Donc c'est pas souhaitable. Sauf à vous porter, sauf parce que la CDU se porte caution, c'est une solution intéressante. Mais effectivement, on ne peut pas tout à fait écarter l'hypothèse où un jour un banquier ait racheté 3, 4, 5 parts, si vous voulez, et ils prennent une espèce de position un peu dominante. Alors, vous avez fait le nécessaire, parce que si on a la situation qui est majoritaire et qui empêche d'eux, ça le bloquera nécessairement. Mais le but pour vous, c'est que par le biais d'un lotissement, quelqu'un ne rentre pas par la petite porte. Voilà. Le banquier, vous ne pourrez pas vous y opposer, parce que sinon vous mettrez fin au financement. Voilà. Mais sur le, ça vous empêche au moins qu'un associé, sans vous le dire, prenne une garantie sur la part de quelqu'un d'autre, et comme ça, par un biais indirect, qui ne sera pas celui d'une cession directe, mais celui d'un nantissement, voilà,
il devienne
près d'une position prépondérante. Okay. Donc ça, c'est important.
Le statut prévoit, en cas de justement réalisation forcée des parts sociales, si on, la banque venait à vendre, je ne sais pas, aux enchères, ou vendre les titres, il y a une faculté de substitution par les associés. D'accord. À la place de l'acquéreur que la banque aurait pu trouver.
Ou... Vous pouvez toujours racheter, si voilà. Vous voulez, plutôt que c'est l'associé qui est adjudicataire, qui rachète les parts, il ne vous plaît pas, bah, vous pouvez dire c'est lui qui rachète.
D'accord.
Voilà. Okay. L'association, non, moi je le prévois justement que l'association rachète dans ce cas-là.
Ok.
Et là, on va toujours en faire renvoyer, toujours, ça c'est le droit de priorité.
Toujours en rentrée d'état d'association, et après elle rachète les parts, quitte la cédée à quelqu'un d'autre après, si vous voulez. Mm-hmm. Et pour vous, il vaut mieux payer les frais d'un acte d'achat de cette part à quelqu'un que de prendre le risque de les voir partir ailleurs. Quoi. Il faut toujours que l'association, cet associé particulier, quelle association, ait un droit prioritaire sur tout. Ça me semble important.
En matière de pension.
Oui.
Ok.
C'est
bon.
Oui.
Ah,
voilà. Oui, allez-y. Sur quel article vous
17,
article
comme
vous
avez
c'était pas mal, c'était je vais un petit nom et ce serait l'article 29.
Alors, vous avez 17,
moi, j'en ai un 17, là, il y a un commentaire. Dissolution d'une personne morale associée. La dissolution d'une personne morale associée, membre de la société, ne lui fait pas perdre sa qualité d'associé.
Elle perd pas sa qualité d'associé. Alors après, elle s'exercera différemment en assemblée, ou ce sera certainement un ancien associé ou un ancien gérant associé qui sera convoqué.
En fait, quelque part, normalement, cet article-là, il a une vocation transitoire. Parce que imaginez qu'une société se dissolve. Et
bon, la phase de liquidation.
Voilà, exactement. Et ce dissous, elle ne va pas forcément le faire en fonction des droits qu'elle a dans votre société civile ici. Imaginez une société qui vous prête de l'argent, justement, mais qu'elle se dissolve. Donc, il ne faut pas, si vous voulez, que sa dissolution lui fasse perdre sa qualité d'associée. Donc, pendant tout le temps, finalement. Après, il faudra bien qu'elle la perde un jour ou l'autre parce qu'elle n'existera plus. Voilà. Mais ce n'est pas sa dissolution elle-même qui lui fait perdre la qualité d'associé, ce sera plutôt la clôture des opérations de liquidation et l'attribution du patrimoine de la société à quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça qui sera plus exact d'écrire. Quoi. Parce que fondamentalement, d'une façon ou d'une autre, et je pense que ça, cet article, il est fait pour éviter l'effet couperet de la dissolution de la société, il faudra quand même bien forcément qu'un jour ou l'autre, lorsque la société, les personnes liquidation de la société seront réterminées, qu'on ait quelqu'un d'autre à la place, si vous voulez, là, c'est sûr. Hein. Après, la question, c'est est-ce que ce quelqu'un d'autre, c'est encore plus vicieux, devra être agréé aussi. C'est normal.
Oui.
Il faut que la dissolution de la société soit comme le décès de quelqu'un, finalement. Que ça, ses héritiers, ses représentants, ceux qui vont le remplacer, soient agréés de la même façon. Voilà. Mais par contre, cet article, il faut peut-être simplement le réécrire en disant que pendant la durée de des opérations de liquidation, finalement. Voilà.
Parce que pour le cas que vous évoquiez, notamment si elle est dissoute, je pensais à un moment, je ne sais pas si on le met dans les statuts ou si on met dans un règlement intérieur, prévoir les cas d'exclusion, justement, pour les personnes qui ne respecteraient plus.
Voilà, on en avait aussi discuté dans le cahier des charges, on aimerait qu'il y ait une clause d'exclusion.
Ça pourrait être mis dans la disparition. Oui. Personnalité morale d'un des associés
ça peut être
une cause d'exclusion, sauf finalement à ce qu'une personne se substitue avec votre raison.
Avec obligation du rachat de ses parts, par l'association. Puisque...
Mais en tout cas, oui, c'est une clause qu'il faut qu'on rajoute, que ce soit pour ça ou pour d'autres raisons aussi.
Je ne sais pas si on peut la mettre dans les statuts, ou si on fait un règlement intérieur. Mais j'ai vu dans les statuts que j'aime bien. Ils l'ont mis carrément dans l'objet social. Là, je trouve que c'est un peu trop. Il vide les règles du règlement intérieur dans l'objet social. Je ne sais pas si c'est l'objet du règlement intérieur.
Oui.
Je ne mettrai pas dans l'objet social parce que c'est plus des règles qui vont concerner les associés.
La vie de la société,
oui.
pas l'objet.
Pas l'objet, c'est pas.
Le seul intérêt de les mettre dans l'objet social. C'est dans les catalogues, donc quand on dit qu'on en rajoute une couche en parlant du personnel, c'est d'insister encore plus sur la spécificité de cette structure-là par rapport à une structure habituelle. Et ouais, je suis d'accord avec vous que sur le fond, c'est pas sa place. Mais est-ce que finalement, c'est pas un moyen de rappeler que l'objectif de la société, c'est vraiment ça, et de oui encore de surajouter finalement à tout ça pour qu'un juge qui sera un jour amené, c'est toujours ça qui nous tracasse, hein, à trancher un différent entre certains, ne perde pas à l'esprit justement cet objectif-là.
D'accord.
Dans cet esprit-là, je ne suis pas forcément idiot.
Et puis aussi de voir le règlement intérieur, son contenu et décider en fonction de tout, sachant que
quelque part, ça, vous voyez, c'est un petit peu comme ce que vous dites tout à l'heure, ça reprend un peu le même esprit, rajouter la phrase sur l'intitulé personnel, pourquoi pas rajouter la phrase sur l'objectif un peu détaillé de la société pour vraiment expliquer que ça, c'est vraiment fondamental pour vous. Quoi. C'est juste ça, pas forcément utile. Et l'exclusion, par contre, je ne serais pas en obligation là-dessus, mais je le pourrais rajouter dans la statue, oui, pourquoi pas. Parce que je pense que pour vous c'est important quand même, et pas même logique justement.
Et on peut aussi pouvoir exclure quelqu'un qui. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, mais voilà, enfin, on aimerait qu'il y ait quand même une clause qui nous permette.
C'est un picolé qui change d'optique.
Oui, picolé.
C'est-à-dire non.
On essaie de le soutenir, hein, on va avec lui.
Pas trop.
Ça dépend qui. Mais disons qu'enfin, il peut se passer des choses.
Non, mais voilà, les gens peuvent changer.
Voilà. Il y a eu, j'ai un exemple, un habitant coupé en Belgique où j'ai travaillé, où c'était vraiment délicat, et il y avait même un psychiatre en groupe, mais quelqu'un a eu des gros troubles psychiatriques, et heureusement, il avait prévu, enfin, de quoi l'écarter du groupe, c'était limite pour son bien aussi, vous voyez, hein, mais la personne était complètement, voilà. Donc, qu'on puisse prévoir des clauses, donc en état extrême.
Ils visaient des clauses d'exclusion, donc pareil, ils visaient directement dans la diminution du capital, on aurait plutôt tendance à prévoir un article particulier, même pour l'exclusion d'un associé. Mais en fait, les causes d'exclusion qui visent sont pas mal, hein. Il y a le cas de ne plus être habitant de manière continue et encore depuis plus de 12 mois.
Sauf le cas si on a des associés participants.
Donc il faudrait mettre ça pour les
résidents.
Alors pourquoi exclure un résident si... En fait, le résident ne serait plus résident, mais...
Oui, mais il change
de catégorie.
Il devrait peut-être rester dans le projet quand même.
Oui, il faudrait le faire changer de collège.
Donc ça ne passe pas une cause d'exclusion, là. Et après, voilà, les violations du règlement intérieur.
Oui, donc ça, on y tient aussi.
Voilà, un accomplissement des apports en compte courant nécessité par son projet immobilier personnel, ça c'est important aussi, je pense.
Oui.
Parce que vous, les apports en compte courant, c'est pour financer, je me souviens, il y avait les charges, participer, etc. Donc, c'est important de prévoir que si parce que bon, après vous êtes aussi solidaires, donc s'il y en a un qui paye plus, ça va se reporter sur les autres. Donc c'est important de prévoir dans ce cas-là au moins la possibilité de le faire sortir. Et puis après, il y avait de manière générale tout comportement grave, contraire à l'objet de la société, etc.
Voilà,
donc nous, on fait très rarement. Et puis, il y a la vie sociale. Je suis désolée, j'ai un rendez-vous
à 11h. Oui, on avait pris le bureau des points pour après. Il y aurait eu 2-3 points à évoquer, c'était essentiellement la gérance. Mais sinon, après, si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler.
Je pense que les deux axes de travail importants, c'est pour vous. Je pense que l'état des lieux, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est l'association, appelons-le comme on veut, les associés résidents et les participants non résidents. Voilà. Une fois qu'on a fixé ces catégories-là, je pense que notre travail à nous, ça va être de déterminer un petit peu comment on l'exprime dans les qualités de l'associé et vous de nous dire quels sont finalement les droits de vote de chacun et l'équilibre entre chacun, avec cette difficulté qu'on a soulevée tout à l'heure, que si on fixe le nombre de résidents à l'avance, on peut fixer la majorité. Mm-hmm. Et si on ne le fixe pas à l'avance, parce que ça ne paraît pas facile de le fixer quand même, les non-résidents. Les résidents, on sait, c'est le nombre de logements. Ça va bien. Les non-résidents, ça peut être totalement variable. Voilà. Alors, est-ce que. Je ne sais pas, je n'ai pas bien la solution pour les non-résidents. Si leur nombre augmente, il faut en quelque sorte que leur voix ou ne soit que consultative, en même temps ils ont quand même financé.
Ils ont quand même financé, mais à la différence d'un juste un prêteur, s'ils veulent être sociétaires plus que prêteurs, c'est s'ils veulent aussi participer à la vie de la société.
Comment les impliquer tout en gardant la majorité à l'association alors que leur nombre est variable, et ça, j'ai pas bien la réponse à l'avance.
J'ai encore une petite question avec la dernière phrase que vous nous avez dite sur le. Voilà, il y aurait un nombre de participants, enfin sociétaires habitants qui correspond au nombre de logements. Est-ce que. Imaginons que tout le monde soit en couple, ça fait deux fois plus que le nombre de logements finalement. Donc là aussi, il faut qu'on prenne ça en considération.
Non, parce que. Excusez-moi, oui. Il faudrait qu'on arrive, ça, finalement, à avoir. Est-ce qu'on peut faire des groupes de parts ou pas? On peut commencer dans la société d'attribution en disant que telle part, parce que maintenant on peut pas, c'est la société
d'attribution. Non, je pense que là, il y a des parts qui font une part, un appartement, ça reste fictif. Donc dans les statuts, on ne pourra pas l'écrire comme ça. Il restera des parts qui seront attribuées en fonction d'apport financier à la Constitution. Et ensuite, c'est toujours problème, c'est non-résidents, associés.
Après, est-ce que effectivement la possibilité d'un couple est quand même à prévoir?
Parce qu'on aimerait aussi voir les couples, c'est deux habitants. Oui.
Alors, la solution mathématique, c'est.
Ça serait de voir 40 pour les.
Ça serait deux parts par appartement, quelque part, en prévoyant qu'effectivement c'est deux personnes. Alors, vous allez me dire après, c'est vrai sur la division d'enfants, ils seront trois, mais après, on n'y arrivera plus. Quoi. Mais peut-être qu'à
c'est peut-être pour ça que les autres groupes ont choisi le capital variable, si ça se trouve. Parce qu'il y a aussi un groupe où, je me souviens, qui parle aussi du vote des mineurs qui font partie du groupe ou des choses comme ça.
Oui, mais ça, c'est peut-être dans la vie, pas au niveau.
Oui, c'est dans la vie, c'est pas au niveau de la vie. Enfin, c'est vrai.
Est-ce qu'il faudrait avoir deux parts par appartement? Et si jamais c'est un célibataire qui occupe un appartement de 3-4, pourquoi pas, il aura deux parts.
Sinon, au lieu d'avoir une part, partir sur 10 parts et que quand vous faites diviser en deux, c'est-à-dire que chaque conjoint a 5 parts, mais après, ça a
De toute façon, on a été obligé d'écarter le un homme une voix à cause de la majorité de l'association. Parce que le un homme une voix, il ne voit pas avec l'association.
Oui, donc en fait, le mieux, c'est.
Ce qu'on a tout à l'heure. Donc finalement, si on a écarté le un homme une voix à cause de ça, est-ce que la logique ne sera pas de dire finalement chaque appartement, c'est deux voix, quoi. J'ai qu'à calculer en retrait, quoi, ça sera ça. Deux parts ou deux voix, quoi. Peu importe le nombre qu'on met derrière, mais ça reviendra à ça. Et finalement, la possibilité, ou alors on en met 10 par appartement, peu importe. Et à l'intérieur des 10, chacun peut voilà. On met 5 pour chaque conjoint.
Comment cela peut se passer si pour un appartement, mettons, il y a 10 investisseurs extérieurs?
Mais c'est pas. Les investisseurs ne sont pas pour un appartement.
Ils ne sont pas pour un appartement, justement. Ils sont,
oui,
ils sont
ils, ils seront bien sociétaires, non?
Oui, mais ils ne seront pas sociétaires.
Ils seront sociétaires à part. Là, eux, ils auront un droit qui ne sera pas relié virtuellement à un appartement comme les autres, finalement. Ils font partie de la troisième catégorie.
Mais au niveau des parts, alors, comment ça se passe?
Et ben justement, c'est la question qu'on posait tout à l'heure. Est-ce qu'on détermine un nombre de parts maximum pour les investisseurs, de façon à garantir toujours que l'association aura toujours une majorité par rapport à ça? Après tout, on peut prévoir, hein, ou peut-être que l'association aura intérêt à voir d'entrer un certain nombre de parts à investisseurs qu'elle détient et qu'elle cède à ceux qui rentrent.
Un peu comme les autres.
Un peu comme les autres qui ne sont pas attribués. Je dis ça comme je dis autre chose, hein, parce qu'une solution à prévoir là. L'inconvénient, c'est qu'on bloque le système d'entrée avec un certain nombre d'investisseurs. Et puis après, il va falloir déterminer quand vous allez avoir un type qui va se pointer avec 50 000 euros. Là, bon, alors combien est-ce qu'il faut qu'on lui donne de proportion de parts qu'on a réservées pour les investisseurs? 50 000, ça représente quoi? Voilà. Peut-être qu'il y a une réflexion plus globale à avoir en disant quel poids veut-on qu'au maximum les investisseurs représentent dans notre structure, tant financière qu'au niveau des voix. Mm-hmm. Et finalement déterminer ce maximum. Et ce maximum va déterminer un nombre de parts qu'on va créer, qui pour l'instant seront attribuées à l'association en quelque sorte, dans l'attente qu'elles soient cédées à quelqu'un d'autre, enfin, je sais, un truc comme ça.
D'accord. Ok, donc ça aussi il faut quand même.
On parle comme on va le faire un peu.
Oui, mais
l'intérêt, par contre, c'est que c'est rigolo parce que ça oblige à créer un peu, là. Mm-hmm. À réfléchir à des choses, à des situations.
Donc, pour les investisseurs, il faut définir quoi, la masse financière, c'est ça?
C'est ce que je propose, mais c'est peut-être pas la bonne solution, hein, c'est ce qui me vient à l'idée en vous parlant maintenant. Hein,
ça, on va y aller.
Il y aura un dimanche entier à y réfléchir.
Comme tout, rien n'est figé si dans 10 ans. Le stock des titres réservés aux résidents, aux non-résidents est épuisé. L'augmentation du capital qui peut augmenter la participation de la fondation pourrait permettre de faire rentrer d'autres.
On peut toujours après évoluer si vous voulez, si vraiment il y a une nécessité, si on dit tiens, il faut vraiment qu'un investisseur en plus, là en tant que capital, on fera rentrer à égalité de part des investisseurs et l'association de façon à maintenir la majorité. Mais comme on disait tout à l'heure, si on prévoit un capital fixe, c'est pour que ce type d'opération reste marginal, parce que justement, il ne faut pas que toutes les fois on dise merde, la session doit être voilà.
Ok, d'accord.
Comment on fait pour la suite?
Est-ce qu'on fixe un autre rendez-vous? Est-ce qu'on commence par du.
Par un mail, on va finir de
lire les statuts là. Oui, mais j'ai un autre rendez-vous.
Oui, pas maintenant, mais pour.
On va travailler sur la trame des projets aux clauses particulières. Mm-hmm. Éventuellement,
vous avez ça, les remarques que vous aviez faites, vous avez peut-être par mail pour nous l'envoyer, Marjorie, parce que les remarques, là, finalement, le fait qu'on voit les commentaires, on voit la question que vous voulez poser en général, le fait que vous soyez arrêté là-dessus, quel est le problème, et que vous puissiez après faire un point, ou avec Marjorie et moi, avec Marjorie, sur les commentaires que vous avez, qui n'ont pas été terminés là. Mm-hmm. Et puis surtout, il y a ce travail, à mon avis, fondamental pour vous, de savoir de proportion à une troisième fois. Mais qui est important.
Il travaille rapidement,
oui. Oui, je vais faire un retour. Après, de notre côté, on va travailler sur les clauses particulières.
Mm-hmm. En gardant cet esprit-là, finalement, association.
La priorité de l'association.
Association qui est prioritaire surtout, mm-hmm. et qui est majoritaire, de façon à être décidée à la version n'importe qui d'autre, les résidents et les participants non résidents. Je pense que c'est le 3 groupes, il n'y en a pas d'autres.
Au niveau timing, vous voyez les choses comment? Enfin, donc vous avez bien expliqué qu'en ce moment, chez les notaires, c'était un peu la course. Je vois l'heure à laquelle vous nous envoyez des mails, mais puisque nous, bon voilà, la banque nous, je vais pas dire harcèle de son côté, mais quand
votre
même.
Votre réunion du dimanche, elle aura lieu quand?
La prochaine, je peux pas vous dire, j'ai pas le planning en tête. La dernière fois, c'était il y a 15 jours, donc ça doit être.
Je ne sais pas
si on a une en décembre, c'est pas sûr. Mais bon, après, on peut aussi faire ça sur deux réunions de deux semaines.
Effectivement, il faut qu'on soit prêt pour le 15 janvier, parce qu'après toute la butoire qu'ils avaient
invitée,
il faut que nos statuts soient constitués avant, quand même.
Ben voilà, oui. Nous c'est, ça serait vraiment l'objectif. Parce que de toute façon, la banque, on est clairement, si on n'a pas des statuts, ils ne prient pas.
Moi, je pense qu'il faut avancer relativement vite, ça. D'ici une quinzaine de jours, qu'on soit prêt bouclé. Mais ça veut dire qu'on vous allez régler ces questions-là.
Oui,
de toute façon, il faudra qu'on se mette un samedi après-midi ou un dimanche.
Oui.
Parce que nous, après, une fois que vous avez donné les instructions, si vous voulez, on peut rédiger de façon adaptée. On prendra le temps qu'il faut pour y arriver. Hein. Mm-hmm. Mais je pense qu'il faut le faire assez vite, quand même.
Hein. Mm-hmm. Et d'ici quelques jours,
voilà.
Non, bah, du coup, ne vous inquiétez pas, mais on verra quand même.
Ouais. Hein, mais... on peut prévoir l'été de se joindre la semaine prochaine. J'ai appris une première réunion que vous avez eue avec les autres membres. Et puis déjà, ça permettra de faire peut-être un point selon vos retours. Et puis après,
mais c'est vrai qu'on a une réunion ce soir.
Bon, les agendas vont se complexifier un peu, c'est sûr.
Ok, très bien.